ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, datant du 15 mars 1995, assisté de Victoria. Cette émission est diffusée dimanche 29 août 2010 dans les nuits de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de ce libre journal. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir. Je vous dirai pas que je suis en pleine forme parce que je trouve que Paris pue en ce moment. Mais, ah oui, Paris pue, mais vraiment, alors je le dis à nos amis de Chartres, du Mans, de Cherbourg, de Caen et du Havre, ne venez pas à Paris, ça chlingue. Je pense que ça sentira moins mauvais quand Castro aura foutu le camp.
Ah mon Dieu.
Pour l'instant, ça pue vraiment. On va en reparler, c'est quand même, je voudrais pas commencer en m'énervant, mais je trouve quand même répugnant, je le dis répugnant, toutes ces petites ordures, ces petits valets, ces petits laquais, ces petits larbins qui vont faire des mines devant ce tyran, ce sanglant dictateur. Alors bon, la mère Mitterrand, de toute façon, on sait ce qu'il en est, c'est pas grave, ça relève de la psychiatrie ou de la gériatrie. Et puis en plus, pour la rescapée de la planète des singes, c'est pas étonnant qu'elle soit amoureuse d'un type qui se comporte depuis 50 ans ou 40 ans comme le directeur d'un zoo. Mais pour les autres... Pour les autres, oh les vilaines canailles, ce type est littéralement dégoulinant de sang, cette ordure immonde a enfermé des millions de gens pendant des dizaines d'années, encore aujourd'hui, torturés, assassinés, trafiqués de la drogue, tout ce qu'on veut, et vous voyez toutes ces petites saloperies qui se prosternent devant lui, ah je dois dire que j'en suis physiquement malade, tout ça parce qu'on espère... qui va rapporter 3 sous. Il a pas de fric, en plus. Ça sert à rien. Bande de mendigos lamentables. Vous aurez pas un rond, il paiera jamais. C'est pitoyable. On a vu les patrons. Alors, il y a un papier de Sanders dans présent, qui dénonce vraiment ce spectacle immonde du patronat français applaudissant cette ordure, debout pour applaudir Castro. Mais c'est pas croyable. Mais dans quel pays on est? Alors, on va faire des grâces aux Chinois, qui sont des tortionnaires, après on nous dit, oh là là, mais vous rendez compte, ce qu'a fait l'Irak contre le Koweït, c'est pas supportable, il faut intervenir d'urgence et tout. En plus, ils nous prennent pour des coins.
C'est très difficile. Monsieur Blanza.
Oui, c'est vrai que c'est difficile d'applaudir à coucher. Ils ont été à plat ventre, c'est très difficile. Enfin. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que je trouve que cette ville pue et les nosélites puent, ils puent tous et me dégoûtent vraiment profondément. De plus en plus, alors. Je veux dire que j'avais pas beaucoup de respect pour eux, mais alors maintenant, ça devient vraiment un mépris de fer. Bon.
Beau début.
Bah, du tout, j'avais pas du tout l'intention de parler de ça, mais, fou, ça dégage. Je voulais commencer en vous disant que, comme prévu, après 3 mois de recherche, j'ai trouvé mon nouveau générique. Enfin, on dit générique, c'est ça?
Oui.
Non, pas générique.
Jingle, vous voulez dire?
Non, non.
Oh,
non,
surtout.
Si vous voulez dire des bêtises, au moins dites-les dans le micro. Donc, la nouvelle musique de générique. Et alors, bon, j'avais une difficulté, c'était que, par tradition, comment dirais-je, par tradition personnelle, je ne voulais pas rompre avec ce qui constitue mes attaches slaves. Alors, on avait passé, jusqu'à présent, j'avais utilisé un très bel air qui s'appelle « Les Partisans Blancs », qui est de Scriabine. Et puis, je me suis dit que peut-être on pourrait trouver quelque chose qui corresponde. Tout simplement, c'était très très difficile de trouver un air qui corresponde à ce que je voulais exactement. Et puis là, je crois que j'ai trouvé. Alors, je vais soumettre ça à votre approbation.
Référendum.
Je lance un grand référendum. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau générique? N'hésitez pas à nous le dire. Vous verrez que c'est le côté russe y est, puisque c'est quand même Otchitchorne. Mais dans une version, enfin, vous allez voir, ou plus, vous allez entendre plutôt.
Yeah!
C'était Chicharna dans la version de Spike Jonze. Alors, j'avais déjà passé dans cette émission un disque de Spike Jonze. C'est un, pour ceux qui connaissent pas, c'est un chef d'orchestre américain, j'en suis désolé mais c'est comme ça, des années 40 et 50, et qui fait ça, qui fait des versions retravaillées des grands morceaux du répertoire. Il ne fait pas que ça. Mais tout à l'heure, par exemple, je vous ferai écouter un extrait de l'ouverture de Guillaume Tell. Vous verrez que bon, c'est pas vraiment l'orchestre de Paris sous la direction de Baron Boehm, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Hein, Patrick, vous avez la gentillesse de me préparer l'ouverture de Guillaume Tell. Ça doit être le numéro 14, je pense. Voilà. Alors donc, bon, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à ces questions, mais enfin, il faut quand même savoir que si j'adopte ce nouveau générique, vous allez l'entendre pendant autant de temps que je serai supporté sur ces antennes. Ça risque d'être long, quoi. Alors 46-51-00-85, vous dites pour ou contre les yeux noirs. Voilà. Et après, je ferai ce que je veux. Bien. Je vais vous dire une chose. Alors, très intéressante. J'ai trouvé ça dans Paris Match. À vrai dire, je l'avais remarqué. Puis, c'est un auditeur qui m'a envoyé. La lecture de Paris Match est une chose intéressante. C'est une interview de Madame Edmond Charleroux. Vous savez que Madame Edmond Charleroux, c'est la dame qui avait épousé Gaston Defer, ce qui prouve que elle avait quand même pas les chocottes. Ben non, parce qu'elle l'a pas épousé quand il avait 19 ans, hein. Elle a fait ça un peu tard, quand même. Le peu qu'il en restait, c'est elle qui l'a eu. Alors, donc, c'était Madame Defer. Et alors, elle répond à une interview de Paris Match, dans laquelle elle parle. Elle dit que aujourd'hui, les biographes s'appuient sur des équipes dotées d'ordinateurs. Moi, dit-elle, j'ai travaillé comme au 19e siècle pour faire une biographie. Il me faut palper les documents originaux. Voilà. Et elle dit que c'est épuisant.
De palper
les documents originaux. Mais c'est pas pour ça que je voulais parler d'elle, parce que c'est parce que elle répond à une question relative à Marseille et au black beurre, blanc bleu.
Aux associations.
Les associations et de Marseille. Et alors elle dit voilà. Elle constate, elle, une émulation entre les blancs et les beurs. C'est sain, pas raciste. Il y a une osmose. Effectivement, à Marseille, ils ont remarqué ça aussi. Ils ont été frappés par l'osmose. D'ailleurs, en général, dans le Midi, comme à Paris, dans la banlieue parisienne, on est tout à fait frappé par la qualité osmotique des relations entre les communautés.
Par les élites qui sont fabriquées.
Oui, oui. Ils échangent des informations. Ils échangent des balles de revolver entre Turcs et Algériens, par exemple. Il y a une espèce d'osmose, mais l'essentiel des échanges, c'est quand même avec des battes de baseball et des revolvers. Alors, elle ajoute, je puis vous assurer que dans peu de temps, nous allons bénéficier d'une élite arabe de première force. Ça, moi, personnellement, j'en ai jamais douté. Parce qu'il y a des élites dans tous les domaines. Hein. Et alors, elle ajoute cette dame qui doit avoir 8 ans de balai. C'est pas du tout que j'ai quoi que ce soit contre les dames de 80 ans, bien entendu. Mais écoutez cette dame, ce qu'elle nous dit. Je puis vous assurer que dans peu de temps, nous allons bénéficier d'une élite arabe de première force. C'est déjà acquis pour le rap, né dans les quartiers nord de Marseille. Les gamins dansent sur Baudelaire, Rimbaud et sur leur propre prose, et ils triomphent en Amérique. Alors, triompher en Amérique, c'est pas difficile, franchement. Dire que ces gamins dansent sur Baudelaire et Rimbaud, je voudrais bien qu'on fasse un sondage pour savoir combien il y a de beurre qui s'est... De beurre, d'ailleurs, même pas que de beurre. Combien il y a de Marseillais ou de suburbains de moins de 15 ans ou de moins de 20 ans qui savent qu'ils sont Rimbaud et Baudelaire. Mais quant à dire que le rap a généré une élite, de la part de cette très vieille dame, ça prouve ou elle est sourde, ou elle est complètement idiote. Et l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et alors elle ajoute qu'elle est en train de former, alors écoutez bien, une association de protection pour empêcher de refouler les Algériens persécutés qui viennent trouver refuge chez nous. Là, c'est une simple question de décence vis-à-vis de notre passé colonial, un devoir élémentaire. Alors moi, je suis absolument d'accord avec cette dame. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'elle reçoive les Algériens persécutés qui viennent trouver refuge chez nous. Juste au-dessus de cette phrase, il y a une photographie où on voit Madame Edmond Charleroux, qui est socialiste milliardaire, c'est assez courant d'ailleurs, et qui, alors on nous dit, la légende nous dit, elle flâne un peu dans son salon provençal des Morelli. Alors, vous voyez le salon provençal des Morelli, on en voit un petit bout. Apparemment, c'est une pièce qui doit faire au moins 100 mètres carrés, qui est luxueusement meublée et qui est somptueusement décorée de tableaux de maître. Et je suis sûr que dans sa maison des Morelli, cette dame seule, cette veuve, pourrait loger, oh, je sais pas, une bonne cinquantaine. Et si elle les loge suivant les critères des marchands de sommeil parisiens, probablement 400 ou 500. Algériens persécutés qui viennent retrouver refuge chez nous. Parce que j'imagine que Madame Edmond Charleroux n'aurait pas l'impudence de proposer que ces pauvres Algériens, on les envoie dans les quartiers nord de Marseille, où de toute façon il n'y a plus de place, il n'y a plus de travail depuis très longtemps, et il y a déjà largement ce qu'il faut en matière d'Algériens persécutés. J'ajoute persécutés par la police française, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays raciste. On ne le dit jamais assez. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je suis en différend grave avec tous mes amis de la droite nationale qui prétendent que la France n'est pas un pays raciste. Moi, je dis c'est la plus mauvaise déclaration qu'on puisse faire. Il faut vraiment dire et répéter à tous les candidats à l'immigration qu'ils viennent dans un pays raciste. Alors que la Tunisie, par exemple, n'est évidemment pas un pays raciste. Ça, c'est bien clair. Alors qu'Israël, par exemple, n'est évidemment pas un pays raciste. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un pays comme Israël soit raciste? C'est exclu totalement, ne serait-ce que par, je dirais, par essence. Il n'y a pas de possibilité de racisme en Israël. Donc je dis aux jeunes Algériens persécutés, ne venez pas en France, qui est un pays raciste, on vous le dit à longueur de journée. On ne peut pas ouvrir un journal sans trouver des articles qui ressemblent à des crachats qui nous expliquent que nous sommes vraiment des ordures nazies. Hein. Encore aujourd'hui, je ne sais plus dans quoi, un papier qui nous explique vraiment que les Français, depuis toujours, sont les plus abjects, racistes, antisémites, collabos, voyous que la terre est portée. Alors je dis aux Algériens, ne venez surtout pas chez nous, ne venez surtout pas chez nous, dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers suburbains de Paris, de Lyon, de Lille. D'abord, il n'y a plus de place, il n'y a pas de travail, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de magasins. Ils ont tous fermé après pillage. Donc c'est très très embêtant, vous allez être très mal. Vous avez deux solutions. D'une part, vous écrivez à Madame Charleroux, en disant Madame Charleroux, alors les Morelli, c'est facile, hein. Madame Charleroux, les Morelli, Bouches-du-Rhône. Voilà l'adresse. Vous lui écrivez et vous lui dites, Madame, j'ai entendu dire que, en tant qu'Algérien persécuté, je pouvais trouver refuge chez vous, et donc je me propose de venir m'installer dans votre mât provençal à la période du temps au temps. Là, vous mettez les dates qui vous conviennent.
Pourquoi écrire, d'ailleurs ?
Hein ?
Pourquoi écrire, d'ailleurs ?
Oh, c'est même pas la peine d'écrire, d'ailleurs, c'est vrai. Allez-y directement. Donc. Et quant aux autres, si vraiment il n'y a plus de place quand vous arrivez, eh bien, demandez des visas d'immigration en Israël, en Tunisie, enfin dans tous ces pays qui sont des pays où il n'y a pas de racisme. Ne venez pas. Voilà ce qu'il faut dire, je crois, aux Algériens. C'est important de leur dire, parce que ces pauvres gens, déjà, ils ont de la misère chez eux. C'est vrai que c'est pas drôle d'être Algérien, en ce moment. C'est encore moins drôle d'être femme algérienne. C'est pas plus rigolo d'être enfant algérien, d'ailleurs. Déjà, en Algérie, c'est pas marrant. Faut bien dire. Moi, je constate une chose, au passage, c'est que les socialistes et les autres, hein, c'est-à-dire les socialistes, pour moi, ça commence à U, le nain de jardin, et ça finit à Chirac. Oui, U, vous trouvez pas qu'il a une tête de nain de jardin ?
Bobu ?
Hein ? Bobu ?
Oui.
Bobu. Moi, je trouve, on a envie de l'empailler, de le mettre sur sa pelouse. Donc, de U à Chirac, ils ont tous eu des sympathies, et plus que des sympathies, pour le régime algérien, qui était un régime socialiste, démocratique, enfin démocrate, c'est pas tout à fait la même chose, et populaire, et bon, très bien, quoi. Et ils continuent à avoir des relations avec les dirigeants algériens, cependant que dans ce pays, il y a des dizaines et des dizaines de morts tous les jours, qui sont tués soit par la police, soit par l'opposition islamique, là on sait pas très bien, parce qu'ils se déguisent les uns en les autres. C'est encore plus compliqué. De mon temps, Hollande était là, et serait là, il aurait appelé ça un bordel arabe. Mais comme il n'est pas là, on ne peut pas employer cette expression qui est vraiment trop grossière sur Radio Courtoisie. Tandis que si lui l'avait employé, c'est une expression militaire. C'est pas, elle n'a aucune connotation raciste, je le précise. Donc, ils ne peuvent pas rester chez eux, je le comprends. Ils arrivent en France, ils trouvent du racisme à l'état pur, à l'état comme il y a de l'acide pur, concentré bouillant, et en France, il y a du racisme pur, concentré bouillant. Donc, il faut qu'ils aillent dans les pays où il n'y a pas de racistes. Je pense à Israël, par exemple. Moi, je suis tout à fait partisan que les Algériens demandent des visas pour ces pays-là. Voilà. Mais vraiment, s'ils veulent venir en France, alors il y a la solution d'aller au Mât des Morelli, ça veut dire des petits morts, hein, en gros, je pense, à côté de Marseille, chez Madame Charleroux, qui s'impose. Alors vous allez voir, il y a un détail qui montre l'espèce de qualité, de délicatesse de cette femme, de cette dame. Toutes les personnes âgées, comme cette dame, savent qu'il faut faire de la marche à pied. Tous les médecins, et j'en ai un en face de moi à qui je donnerai la parole tout à l'heure, recommandent aux personnes âgées de faire de la marche. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la circulation, c'est bon pour le souffle, c'est bon pour le cerveau,
pour
le moral, et c'est bon pour les marchands de chaussures, enfin c'est bon pour tout le monde. Eh bien, Madame Charleroux nous dit Paris Match, s'impose 1h30 de marche sur les recommandations de ses amis Roland Petit et Zizi Jeanmaire. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Quand elle fait de la marche, c'est sur recommandation, non pas de son médecin de la sécurité sociale, mais de Roland Petit et Zizi Jeanmaire. Voilà. C'était... Donc, alors, elle a cette maison où elle est prête à accueillir, je pense, 400 réfugiés algériens. Je signale d'ailleurs qu'elle a également un appartement à Paris, dans le même immeuble que la maman de Mazarine. Vous savez qui est Mazarine ?
Oui.
C'est officiel maintenant, on peut le dire. Mazarine, c'est Mademoiselle Mitterrand, la fille.
Elle-même.
Donc elle-même. Eh bien, cette jeune fille, elle a une maman qui habite dans le même immeuble qu'Edmond. Alors là aussi, il doit y avoir un peu de place. Je crois qu'elle est propriétaire d'un étage. C'est rue des Saint-Pères, si je ne me trompe pas. C'est un quartier plutôt agréable. C'est pas loin de la rue du Dragon. Et elle a à peu près un étage où elle habite toute seule. Bon, une veuve, un étage, à mon avis, elle pourrait faire de la sous-location. Ça se fait beaucoup, on fait de ce qu'on appelle en Angleterre « bed and breakfast mm-hmm. », ou en Allemagne, on appelle ça « Zimmer ». Et moi, quand j'étais petit, j'allais en Allemagne, je trouvais, on voyait partout, en Autriche et en Bavière, des panneaux à poser sur les immeubles, sur les maisons où il y avait marqué « Zimmerfrei ». J'étais très étonné que tous les gens s'appellent de la même manière. Monsieur Zimmerfrein, voilà. Donc, elle a certainement des chambres libres, Madame Edmond, et elle pourrait loger. Et je pense qu'elle est pour, puisqu'elle le dit. Elle dit que nous devons les héberger.
Donc, elle ne peut pas être contre.
Qu'elle commence par donner l'exemple, et puis on en parlera ensuite. Qu'est-ce que j'étais pour dire encore ? Ah oui, tiens, je voudrais vous donner une information que j'ai trouvée en présent. Ah, vous savez que c'est drôle parce que toutes les semaines, je donne des informations tirées de présent. Et la semaine prochaine, emportée par le temps, je n'ai pratiquement pas cité présent. Eh bien, j'ai eu plusieurs lettres d'auditeurs qui m'ont dit « Alors, vous êtes fâché avec présent ?» Vous voyez, ça va vite. Hein. Non, je suis pas fâché avec présent. J'ai trop cité le monde la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de citer présent. Et je vais le citer cette semaine, aujourd'hui, je le lis tous les jours. C'est beaucoup de choses très intéressantes. Il y a le papier de Sanders, dont j'ai déjà parlé, sur le patronat debout, où je sens que ça remonte, saluant, applaudissant Castro. Il y a un formidable papier de Daoudal qui décortique l'imposture des sondages, on va en parler après. Et puis, il y a cette information-là. Dans la cour de récréation du collège La Madeleine de Gonesse, un élève âgé de 17 ans, d'origine turque, a tiré à trois reprises en direction de trois agresseurs en cagoulé, qui avait fait irruption dans l'établissement. Selon les témoins, le jeune homme avait été frappé avec une barre de fer par l'un des trois intrus avant de riposter avec son arme. Placé en garde à vue, l'adolescent a évoqué un règlement de compte consécutif à un vol de moto dont il aurait été victime, suivi d'une opération menée avec des membres de son entourage afin de récupérer l'engin. C'est Chicago, hein ? C'est Chicago. Le gars, il est à moto, avec son flingue dans la poche. Il y a trois gars qui lui volent sa moto. Il va chercher la famille, il récupère la moto. Les trois gars reviennent, lui mettent un coup de barre de fer. Et sur le flingue, il les descend. Alors, écoutez bien la suite. Les parents d'élèves et les enseignants entendent réclamer au pouvoir public, c'est naturellement les pouvoirs publics, hein, une surveillance accrue de l'établissement, jugeant, ouvrez les guillemets, inacceptable que des personnes encagoulées et armées d'une barre de fer puissent entrer dans un établissement public, y commettre des exactions et en ressortir sans être inquiétées. Fermez les guillemets.
Il faut une loi pour empêcher les personnes encagoulées d'entrer avec des barres de fer.
Bien sûr, il faut d'abord que les pouvoirs publics s'en occupent. Et ensuite, il y a une phrase extraordinaire là-dedans, c'est que, je vous rappelle la première information. Un élève âgé de 17 ans d'origine turque a tiré à trois reprises en direction des trois agresseurs en cagoulé, et les parents d'élèves et les enseignants disent et en ressortir sans être inquiétés. C'est-à-dire, quand on vous tire dessus, c'est pas inquiétant. Bon, c'est normal. Mais il y a mieux. C'est que les parents d'élèves exigent une surveillance accrue de l'établissement, parce qu'il est inacceptable que des personnes en cagoulé et armées de barres de fer puissent y entrer. Mais qu'un élève de 17 ans y entre avec un flingue dans la poche, tout ça est parfaitement normal. Les parents d'élèves et les enseignants n'y voient aucun inconvénient. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette affaire, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là derrière, comme l'ombre de l'horrible racisme, de l'horrible discrimination raciale ? Parce que, je rappelle que cet élève est turc. Et moi je me demande si quelque part, tapis au fond des cerveaux, dans la mesure où ils en ont, des parents d'élèves et des enseignants, tapis au fond de leur cerveau. Il n'y a pas la bête immonde qui leur susurre dans l'oreille interne, bien entendu, que, au fond, c'est pas tellement anormal qu'un garçon turc de 17 ans soit armé d'un fusil, enfin d'un pistolet, ou d'un revolver. Vous voyez ? Si ça avait été français, ça aurait été, évidemment, une abomination raciste. Mais un Turc, on dit, c'est normal. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous a dit. D'ailleurs, on trouve tout à fait normal ce qui se passe en Turquie, puisqu'on vient d'accepter que la Turquie entre, disons, par la porte de côté, dans l'Union européenne. Hein. Au moment même où, en Turquie, se déroulent ce qu'on peut appeler des pogroms, puisqu'il s'agit de massacres perpétrés contre des minorités religieuses qui ne sont pas assez musulmanes au goût de ceux qui sont plus musulmanes qu'elles. Moi, je ne savais même pas que ça existait. D'ailleurs, j'ai foutu de retenir le nom. Vous savez comment il s'appelle ? Les Alaouites, non.
Non,
c'est pas la même chose.
Non.
Voilà, vous ne savez pas non plus.
Oui.
Eh bien, alors, ce que j'ai appris d'abord, c'est que depuis des années, on nous disait, attendez, il ne faut pas confondre, dans l'islam, vous avez les chiites, qui sont des dangereux excités, et puis il y a les sunnites, qui n'ont rien à voir, ils sont modernes, il n'y a pas de problème, les sunnites, d'ailleurs, l'essentiel du monde arabe est sunnite, à l'exception des Iraniens, qui ne sont pas des Arabes, et qui sont des chiites.
On découvre qu'il y a moins sunnites que les chiites.
Et alors, là, en Turquie, donc c'est des sunnites, donc des démocrates avérés d'un islam tolérant, comme ils disent, et ils sont en train de massacrer des gens, parce que les gens ne sont pas sunnites, ne sont pas chiites non plus, ils sont... Alors, sans doute qu'un auditeur nous téléphonera pour nous dire ce qu'ils sont. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait, donc on en apprend tous les jours. Eh bien, vous croyez que ça va gêner nos élites, ça, que dans ce pays où on massacre les Kurdes, pour des raisons qui sont d'ailleurs... totalement incompréhensible, en gros, où on met en prison des milliers de gens parce qu'ils sont censés être les complices des Kurdes, où sévit l'armée qui tient le pouvoir, en réalité, sous la façade d'un pouvoir civil, ben, on le reconnaît comme membre, pas à part entière, mais quasiment, de l'Union européenne, de la communauté européenne. Ça ne gêne personne, ça ne gêne absolument personne. Pourquoi faire des histoires et en plus, on nous dit, mais il faut recevoir les Turcs, puisqu'ils sont dans l'Europe, il faut qu'ils puissent venir librement dans tous les pays européens, qu'ils aient droit à la libre circulation, au titre d'ailleurs de la libre circulation dans la communauté européenne. Et on vous explique que l'affaire de Vendeur, où une jeune fille a étranglé... de 14 ans et demi à étrangler une camarade de classe de 14 ans et demi dans les toilettes du lycée, eh bien, c'est un drame social. Parce que personne n'ose dire que peut-être, ça aurait quelque chose à voir avec les racines de cette jeune fille, avec la formation qu'elle a reçue, avec l'éducation qu'elle a reçue, avec tout simplement le fait qu'elle est kurde et qu'elle a acquis par... tradition, par éducation, par formation, par coutume, des habitudes qui ne sont pas les habitudes des Européens. Il paraît qu'au Kurdistan, on a tendance à régler les problèmes interfamiliaux par des moyens qui dépassent les moyens généralement utilisés en Europe. Voyez ?
En Arménie.
Par exemple, voilà, c'est ça. Les problèmes entre les Turcs et les Arméniens ont été réglés dans certaines conditions qui peuvent laisser croire que les Turcs, dans certains cas...
violents,
c'est... Non, on peut pas dire ça, parce que c'est presque raciste de dire ça. Non, une autre conception du maintien de l'ordre. Hein? Voilà, c'est ça. Une autre conception du maintien de l'ordre. Moyennant quoi, on nous explique que la Turquie, il n'y a aucun problème. Alors, moi, je veux bien continuer comme ça. De toute façon, maintenant, les Turcs, on sait où les envoyer, parce que si elle accepte des Algériens persécutés, je vois pas pourquoi Madame Charleroux refuserait d'accueillir des Turcs.
Elle peut aussi lui envoyer des Turcs.
Hein, elle doit. Et comme il y a d'ailleurs 150 000 Comoriens à Marseille, on a appris ça récemment. 50 000 à Marseille. 150 000 sur le territoire national français et 50 000 à Marseille. Eh bien, je vois pas pourquoi ils iraient pas aussi voir Madame Charleroux, qui doit avoir un jardin. Autour de son mât, il y a certainement un jardin. Donc voilà, maintenant je vous ai donné les adresses, vous savez, chers amis kurdes, turcs, algériens, comoriens, ce qui vous reste à faire. Madame Charleroux vous attend, elle vous servira du thé, certainement dans une très très belle vaisselle, une porcelaine, je pense, chinoise d'époque. Je ne vous ai pas dit de quelle époque. Voilà, alors je disais également que dans le même numéro de... Du quotidien, ça y est. Pardon. De présent, il y a un papier d'Yves Daoudal qui souligne que la commission de contrôle des sondages a avoué, enfin, que les sondages n'avaient aucun sens. Alors, c'est... à la suite de la publication par le directeur par le quotidien de Paris d'un sondage en résultat brut. Vous me dites si je ne suis pas bien compréhensible. Que la commission a écrit en disant, non, vous n'avez pas le droit de publier des résultats bruts. Il faut publier les résultats redressés, parce que les chiffres bruts ne correspondent ouvrez les guillemets, qu'à une étape intermédiaire dans l'élaboration d'un sondage. En raison de l'imperfection inévitable de l'échantillon, leur redressement est une nécessité. La diffusion de chiffres bruts, qui n'ont eux-mêmes aucune valeur, ne peut que gravement induire le public en erreur. Alors, ça, c'est la commission des sondages qui dit ça. La commission des sondages vous dit, les résultats... Ah, ben voilà, tiens, alors je fais une parenthèse. Voilà, la population massacrée par les Turcs s'appelle des Alevis.
Des Alevis, comme Daniel.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je n'avais pas tort de parler de pogrom, au fond. Hein. Non, mais je plaisante pas, il y a peut-être une... Alors, c'est curieux qu'on ne nous en parle pas, là.
On nous dit que c'est une variante des chiites, ici.
Oh. Ah bon, c'est des chiites mous, alors.
Je ne sais pas.
C'est parce que les sunnites leur reprochent d'être mous. Enfin, tout ça est très compliqué. Mais ce que je constate, je dis ça pour en finir avec ce sujet, c'est que, en ce moment même, en Turquie, il se perpétue dans l'indifférence générale des autorités. Il se perpétue, non ? Oui, il se commet, en tout cas, des pogroms. Et que ça n'empêche pas du tout nos Européens, d'habitude si sourcilleux sur les questions des droits de l'homme, de passer des accords économiques avec la Turquie.
Chypre n'est pas beaucoup gêné.
Chypre non plus, la Palestine non plus. En fait, tout ça ne la gêne pas énormément, on peut dire. Donc, pour en revenir au sondage, la commission de sondage nous explique que les chiffres bruts n'ont aucune valeur. C'est eux qui le disent, hein, ou c'est elle, la commission. La diffusion de chiffres bruts qui n'ont eux-mêmes aucune valeur ne peut donc que gravement induire le public en erreur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, Daouda nous dit, ainsi donc, le fameux et très scientifique échantillon représentatif selon la méthode des quotas est imparfait, et il l'est au point de n'être pas du tout représentatif, puisque les chiffres qu'il donne n'ont aucune valeur, et qu'il est donc nécessaire de les redresser. Il faut élaborer le sondage, ce qui, en termes élégants, veut dire qu'on doit faire subir aux chiffres une manipulation. Mais comment redresse-t-on les chiffres qui n'ont aucune valeur ? Demande Daouda, fort justement. Quels sont les critères qui vont permettre de donner une valeur à des chiffres qui n'en ont aucune ? Naturellement, ils ne peuvent être qu'arbitraires. On en connaît au moins trois. Le premier est clairement revendiqué par les experts. On doit redresser les chiffres en fonction des résultats obtenus aux précédentes élections et de la configuration du paysage politico-médiatique. Alors ça a été dit par le directeur d'un institut de sondage. J'avais publié ça dans le Libre Journal il y a 2 numéros. Il disait, par exemple, on redresse de 30% systématiquement les résultats du Front National. Voilà. Systématiquement, ils le font. Le deuxième critère de redressement apparaît, dit Daoudal, en filigrane dans les propos des experts. Les chiffres sont redressés pour correspondre au schéma politiquement correct. Le troisième est un secret de Polichinelle. On redresse les chiffres de façon à faire plaisir à celui qui a commandé et payé le sondage. Et là, c'était exemplaire il y a une vingtaine de jours, et j'expliquais ça dans le Libre Journal. Le même institut de sondage a fait les mêmes jours de janvier, un sondage où la question était « Pour qui voterez-vous au présidentiel ?» On ne peut pas faire plus simple. Ils en ont fait deux. Le même institut de sondage a fait deux sondages les mêmes jours sur un échantillon de la population qui était à peu près le même, puisqu'il y avait pour l'un des sondages 980 personnes, pour l'autre 1040 personnes. Je crois que c'était ça le chiffre. Donc la différence est minime. Et un de ces sondages était destiné à un journal, l'autre était destiné à un autre journal. Et les résultats étaient différents de 2 à 3 points. C'est-à-dire que dans un des journaux, Jospin avait 23%, dans l'autre journal, il y avait 20%, dans un journal, Chirac avait 25% ou 22%, dans l'autre 25%, etc. Alors, obligatoirement, ça veut dire que, ou les sondages n'ont strictement aucune valeur, aucun sens, ou les sondeurs redressent les chiffres pour faire plaisir à leurs clients. Alors, si le client est plutôt chiracien, eh ben, on colle 2 points de redressement à Chirac. S'il est plutôt socialiste, on les colle à Jospin. Et puis, s'il est rien du tout, comme l'Express, par exemple, on donne à tous les deux. L'essentiel, d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est que Le Pen ne dépasse jamais 10%. C'est la base du trucage, c'est ça. C'est quand même, il faut maintenir Le Pen 10%. Et il faut s'arranger pour qu'ils perdent toujours. Alors, il y a des choses, il y a des résultats.
Le danger monte à chaque fois.
Voilà. Par exemple, vous avez des journaux qui publient toutes les semaines, un sondage, ou tous les 15 jours. Et vous voyez Le Pen, 11%, et à côté, il y a moins 1%. Et vous en concluez que c'est moins 1% par rapport au sondage précédent. Alors, si vous avez des archives, vous allez dans vos archives, vous retrouvez le numéro précédent et vous regardez. Et vous voyez Le Pen, 11%, entre parenthèses, moins 1%. Alors, vous vous demandez comment ils font pour lui enlever 1% à chaque fois sans que ça change jamais. C'est des mathématiques aléatoires. 11 moins 1 égale 11, moins 1 égale 11.
Et le danger monte toujours.
En plus, le danger monte. Voilà. Alors, Daoud Aldi, Nicolas Miguet, c'est le directeur du quotidien Paris, donne d'autres exemples. Selon lui, au printemps 92, les chiffres bruts concernant le traité de Maastricht donnaient 50-50 au moment où les chiffres redressés donnaient 60-40, 60 oui, 40 non, intox du politiquement correct. Il affirme également que l'IFOP aurait présenté à Philippe de Villiers un sondage où les chiffres bruts lui donnaient 5%, mais que ce résultat pouvait monter plusieurs points si Villiers payait une partie du sondage. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Miguet, cafeté par Yves Daoudal, hein, de présent. Je prends mes précautions, hein, je vous relis la phrase. Nicolas Miguet affirme également que l'IFOP aurait présenté à Philippe de Villiers un sondage où les chiffres bruts lui donnait 5%, mais que ce résultat pouvait monter de plusieurs points si Villiers payait une partie du sondage. Alors, c'est formidable, parce que moi, je voudrais bien faire un sondage comme ça. Aimez-vous Serge de Beketch? Bon, alors, le cas rapporte le sondage, les réponses, c'est 0,4% de oui,
pour voir, ouais.
Et 99,6% de sans opinion. Alors, je dis, mais si je vous donne un peu plus, on peut pas inverser les résultats. Ça peut s'arranger. Vous m'arrangez ça, Michel?
Certainement, oui.
C'est bien. Enfin, dans sa réponse à la commission, Nicolas Miguet signale un sondage. Et ça, c'est très intéressant, écoutez bien. Et si vous pensez qu'il s'agit de Jospin et Le Pen, vous avez tout à fait le droit de le penser, mais c'est pas dit dans l'article, et moi, je peux pas vous le confirmer. Dans sa réponse à la commission, Nicolas Miguet signale un sondage où un candidat a recueilli 12,3% d'intention de vote selon les résultats bruts obtenus après l'échantillon, et qui a été redressé à 19%, alors qu'un autre candidat obtenant 12,5% en brut restait à 12,5% après redressement. Le même sondage. Ah, celui-là, 12,3, c'est pas... Tiens, on va lui donner 19. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très très cher, les sondages. Quand j'étais à Minute, on avait voulu en faire un. Le premier prix, c'est 40 000 francs. Donc c'est terrifiant, ce que ça coûte cher. Et vous voyez que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça, vous pouvez aussi bien jouer avec des dés. Il faudrait des dés à 10 faces.
Hein? Ça n'a pas de sens dans une logique de concurrence très forte. À un moment où...
Ouais. Mais... Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, on va maintenant venir au gras de l'émission, si j'ose dire. Puisque, alors, je vais vous dire qui je vais recevoir. Je reçois d'abord le docteur Tremblay, que j'avais déjà reçu il y a quelques semaines, et qui va nous expliquer de façon plus détaillée les relations qui existent entre une politique familiale et une situation démographique. Ensuite, je recevrai Gérard Delas, qui est officier en retraite et qui est le créateur du refuge Guillaumet. On va parler de cette activité qui est une très belle activité. C'est une espèce de moine soldat. Gérard Delas, vous allez voir ce qu'il fait, c'est passionnant. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, Marc Dem et une visiteuse tout à fait exceptionnelle, je ne crains pas de le dire, qui s'appelle Amandine Doré Tserstevens, qui est donc la femme du grand écrivain voyageur Tserstevens, qui est un petit peu oubliée maintenant, mais à mon avis, ça ne va pas durer longtemps, parce que c'est un tel écrivain, d'une telle qualité, d'une telle originalité, d'une telle richesse, d'une telle puissance, d'une telle vérité, qui est tellement proche de nous, qu'il ne peut pas rester dans son purgatoire fort longtemps. Il faut simplement qu'un éditeur se décide à le republier. Tserstevens, c'est l'auteur d'abord de Tahiti et sa couronne. Enfin, d'abord, c'est un de ses derniers livres. Mais c'est un livre magnifique et puissant. C'est également l'auteur de l'itinéraire espagnol, de l'itinéraire en Yougoslavie qu'il faut relire maintenant, de l'itinéraire portugais, du Dieu qui danse en Italie, qui est un livre magnifique, de la fête à Amalfi, qui est un livre magnifique aussi. C'est à la fois un ethnologue, un curieux, un moraliste, et puis un aventurier. Et puis vous allez voir l'écrivain, je vais vous donner tout à l'heure un extrait de son livre. C'est magnifique. Il avait fait un livre que j'ai reçu en prix de français quand j'étais écolier, enfin lycéen, et qui s'appelait le Périple des îles Atlantides. Très très beau livre, magnifique. Alors voilà, on va recevoir Amandine Doré, qui est graveur, je sais pas, dessinateur, dessinatrice, je sais jamais comment il faut dire, et qui vient d'écrire un livre qui sera publié, j'espère, prochainement, sur T.S. Stevens. Et puis on terminera avec Marie-Josée de Bravoura. Voilà, ça c'est le programme prévu. Et puis je vous avais promis de vous faire entendre l'ouverture de Guillaume Tell. Alors, avant, on veut peut-être des questions.
J'ai quelques réactions d'auditeurs sur votre début d'émission. Là, très gros bravo à Serge de Becquetch qui a démarré ce soir sur les chapeaux de roue.
Oui, parce que j'étais un peu colère là.
Bravo, voilà. Bravo pour votre colère contre Castro. Parmi les lécheurs de Castro, ne manquez pas de mentionner Séguin, le souteneur de Chirac. Vous dites que Paris pue à cause de Castro. Avez-vous vu l'émission l'autre soir avec Florence Belkacem, qui a dit qu'elle était dégoûtée d'avoir vu Jean-Marie Le Pen poser avec sa femme, et aussi pour une autre affiche où il posait avec une petite fille blanche. C'est sa petite fille, je crois. Hein.
Bon. Mais écoutez, mais ça c'est plutôt gag, parce qu'il aurait posé avec une négrillonne. Tout le monde aurait dit « Ah oui, alors bien sûr, c'est de la démagogie. »
Il essaie. Mais, hein.
Il a une petite fille qui est blanche. Ça peut arriver dans les meilleures familles du monde, hein. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas encore de loi contre ça.
Ça écœure Madame Belkacem.
Bon. C'est ça.
Bah, écoutez. Une question tout de même, vous vous posez là. Est-ce que Monsieur Saddam Hussein vaut mieux que Castro?
Oh, je ne vais même pas répondre à cette question.
Et puis, alors, vous avez des questions à propos de l'émission de Jean-Marie Le Pen de lundi soir. Qu'en pensez-vous?
Je suis bien embêté parce que j'ai pas pu la regarder pour des raisons personnelles.
On prend des gants pour recevoir Castro, mais on se conduit à l'égard de Jean-Marie Le Pen d'une façon innommable, si on te...
Bien sûr, non, mais c'est vrai, c'est ça.
C'était assez... Mais en fait, il y a un très beau dessin de char dans Présent, justement, qui montre Jean-Marie Le Pen, qui dit au suivant, et on voit derrière lui une armée de questionneurs.
Il y a un très beau papier de Martin Pelletier dans National Hebdo, qui est intitulé « Merci Miller », où il explique le bien énorme que Miller, le psychiatre, comme son nom l'indique, a fait à Jean-Marie Le Pen en l'attaquant de façon hystérique.
C'était tellement idiot, voilà. En plus.
Alors, il faut lire le papier de Martin Pelletier, tout est dit, là.
Et puis, vous ne dénoncez pas Jean-Marie Le Pen qui veut faire de la maison de Jeanne d'Arc une succursale du Front National?
Je veux bien dénoncer Le Pen, mais ça fait vraiment beaucoup. Hein. Je ne sais pas si les dénonciateurs de Le Pen, les sycophantes et les délateurs, ont besoin de renforts. Je n'ai pas l'impression.
Et puis alors là, vous avez une armée de réactions, tout de même, à propos de la musique.
Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, attendez, ou pas je commence par les noms. Hein. Bon. Quelqu'un nous dit « Je suis indifférente à propos de votre... »
Bonne attitude.
Bravo sur Fidel Castro, mais pour le... Voilà, c'est celle-ci qui dit « Bravo à Serge de Becquetch sur Fidel Castro. Pour le générique, je suis indifférente. Mais les autres, je n'aime pas le nouveau générique. Je préfère l'ancien et de beaucoup. Votre nouveau... musique de cirque. Les âmes marcheront sur la tête. »
Nous
préférons l'ancien générique. Il était très bien quant au nouveau. Donnez-nous plutôt la version originale. Je suppose que le nouveau générique est une blague. Pouvez-vous nous parler de l'affaire de Marseille? C'est une question qui n'a rien à voir avec le générique. Non, au nouveau générique. Je préfère les partisans blancs. Moi aussi. Il y en a des biens.
Bon, alors allez.
Parce qu'il y en a des variés. Est horrible, ça ne nous empêche pas d'écouter Serge de Becquetch.
Je préférerais
Wagner, ça fait du bruit, mais ça tient la route. C'est laid, décadent.
Oh,
je l'écouterai maintenant. je ne prendrai qu'à la présentation de Victoria. Merci, merci.
Oui, mais
non,
comme...
pas le nouveau générique. Gardez l'ancien. Zéro pointé pour la musique de Brassens. Je préfère l'ancien indicatif et son caractère guerrier. Celui-ci fait penser à Max Linder.
Ah, mieux, mieux, c'est mieux.
Il est inadapté. Il fait musique russe revue et corrigée par Walt Disney.
Pas mal vu.
Monsieur Sergueï Ovbekech, les bateliers de la Volga. Ok, Otchitchornier. Ok. La version US, McDo, Stars and Stripes, je ne vous connais plus.
Ah okay. Non, ce n'est pas McDo, Stars
okay,
and Stripes.
Ok, boy.
C'est, ça a 40 ans, tout ça. Mais je voudrais bien que vous nous donniez aussi les oui, quand même.
Ou Serge de Beketch est sourd, ou il est devenu complètement idiot. À part ça, on l'aime bien. À part ça, on l'aime bien. Bon, attendez, tout ça, ça se recoupe. Ça se recoupe toujours. Nous ne sommes pas le 1er avril. Hein, c'est pas bien de nous faire des blagues. Changez pas de partisan pour une musique de casserole. Je traîne. Bon, eh bien, ne souffrez plus. Attendez, les autres arrivent. Ah, voilà, c'est celui que je cherchais. Il faut qu'il garde son premier indicatif. Sinon, nous demanderions s'il n'est pas un client de Miller, le psychanalyste de France 2. Bon, allez. Mais alors, bravo pour le générique. Bravo pour Spike Jones. Je vous signale qu'il a enregistré un tifourtou formidable.
Oui, exact.
J'aime le nouveau générique. Le chef d'orchestre farfelu avait une grenade à la place d'un œillet à la boutonnière. L'indicatif n'est pas mal. Il est grinçant comme l'émission. Ceci dit, sans méchanceté.
Non,
Spike
mais ça,
Jones,
c'est plus
un
beau compliment.
Bon choix. Il faudrait faire un petit montage avec le gargarisme de... Guillaume.
Mais on va l'entendre.
Je suis fanatique de Spike Jones. Voudriez-vous nous donner la référence du disque?
Oui,
voilà.
Alors,
savez tout.
On va donc écouter Guillaume Tell, parce que je dois vous dire que, comme j'adore Tex Avery, enfin j'aime beaucoup Tex Avery, j'aime beaucoup naturellement Spike Jones, c'est des choses qui me font hurler de rire littéralement. Vous étiez à la fois insolent et désinvolte et très très bien fait techniquement. Et je voudrais arriver à vous convaincre que, je suis très très content que qu'un auditeur ait identifié ça à l'émission. Le ton de cette musique, autant que je voudrais finir par donner à cette émission, c'est-à-dire ce côté un peu insolent, grinçant et puis rigolard, quoi, quand même. Parce que si on se marre pas, c'est fini, on est foutu, on va mourir d'ennui. Alors voilà, Guillaume Tell.
Cut, stop, will you wait a minute?
What's the matter, Mr. Jones?
Well, something's wrong with the orchestra. Let me hear what the banjos were playing. Now let me hear what the trumpet was playing. Now let me hear what the piano was playing. Good. For a minute, I thought you were playing the wrong instruments.
Barney Google with his googly eyes. Barney Google had a wife three times his size. She sued Barney for divorce. Now he's living with his horse. Barney Google with his googly eyes. Barney Google with his googly eyes. Barney Google has a girl that loves a guy. Only friends can get a squeeze. That girl has no enemies. Barney Google with his googly eyes.
Thank you.
Alors, bien entendu, comme tout ça n'est pas sérieux du tout, vous avez tous identifié un air qui n'était pas du tout l'ouverture de Guillaume Tell, parce que même trafiqué, même avec des cloches à vaches et des trompettes de brume, on voit bien que c'est pas Guillaume Tell, c'était autre chose. Mais on va quand même tout à l'heure entendre le fameux gargarisme de Guillaume Tell, qui est un des grands moments de la musique classique retravaillée.
Alors, vous nous donnez les références tout de suite.
C'est un disque qu'on trouve, c'est un disque compact qu'on trouve à la FNAC. Puis je suppose d'ailleurs à la FNAC, je signale qu'il y a
Mais
tout un rayon.
C'est le titre simplement, ça. Ah, le titre exact.
Ça s'appelle Spike John and His City Slickers. Voilà. Je suis désolé de dire les choses aussi brutalement, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc c'est un disque stéréo RMB 75017. Remember.
75017.
Voilà, c'est ça. Voilà, Spike Jonze. Docteur, est-ce que vous aimez Spike Jonze?
Je ne le connais pas d'habitude.
C'est la première fois que vous l'entendez?
La première fois, oui.
Bon, donc vous n'avez pas encore, pu vous attacher.
Non.
Bon. Alors, docteur Tremblay, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un numéro spécial, de la lettre de l'UPN, consacré à la politique familiale et à la démographie française. Et on en a déjà parlé un petit peu, mais on en avait parlé dans l'aspect, on avait plutôt évoqué l'aspect négatif, c'est-à-dire l'aspect de défense de votre action contre ce que vous avez défini comme étant une guerre menée à l'aide des lois de contrôle des naissances et d'avortement contre la population. Mais il y a un aspect qui est tout à fait intéressant dans ce document, c'est l'aspect positif, c'est-à-dire la démonstration que vous faites, qui est impressionnante parce que c'est une chose à laquelle on pense pas d'habitude, c'est qu'une démographie dynamique est un appui, est un atout formidable pour l'économie nationale. Or, on est arrivé à force de bourrage de crâne malthusien à nous faire croire que c'est le contraire. C'est-à-dire que plus on a d'enfants, plus on s'appauvrit. En s'appuyant d'ailleurs sur l'exemple du tiers-monde, qui n'est pas démonstratif dans notre cas. Alors, vous avez fait cette démonstration, vous la faites donc dans cette brochure, qui s'appelle, je le rappelle, la lettre de l'UPN, Union pour une politique nouvelle. C'est le numéro spécial 59, politique familiale et démographie française. J'aimerais bien que vous résumiez pour les auditeurs de cette émission votre raisonnement. Alors, la première chose, c'est vous donner des chiffres. Alors, les chiffres, on a l'habitude de dire que c'est très ennuyeux, c'est peut-être vrai, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus démonstratif et de plus clair. Et là, on ne peut pas être plus clair que vous l'êtes, puisque vous utilisez un chiffre qui est assez peu courant dans la presse, en tout cas dans les médias, je suppose qu'il doit être utilisé couramment par les démographes, c'est le rapport fondamental entre la population de plus de 60 ans et la population que vous appelez population adulte cotisante. Autrement dit, pour parler de façon un peu plus simple, combien de retraités par rapport à ceux qui cotisent pour payer les retraites. Voilà. Or, vous nous dites, en 1960, il y avait un retraité pour 4,5 cotisants, travailleurs cotisants, ou si on préfère ne pas couper les pattes et les bras des travailleurs, deux retraités pour 9 travailleurs. Voilà. Et en 88, il n'y avait plus qu'un retraité pour 2 travailleurs. Et en 94, il y a, disons, 10 retraités pour 19 travailleurs. Ce qui veut dire moins de 1 pour 2. Alors, très clairement, ça veut dire que il y a une personne qui vit en touchant des retraites qui sont financées par 2 personnes. Moins de 2 personnes.
Actuellement, voilà.
Alors, à l'évidence, c'est un système qui court à la catastrophe. Parce que c'est tout simplement impossible de prélever sur 2 travailleurs, suffisamment d'argent pour faire vivre un inactif. Exactement. Donc, ou on va faire crever de faim tous les trois, ou on va tout simplement laisser mourir le retraité.
Oui, oui. Oui, c'est exactement le problème. Et c'est la grande question du vieillissement de la population et surtout de l'évolution. Le vieillissement, c'est un terme dynamique. Il y a l'état vieux qui peut être stable. Le vieillissement, c'est un phénomène de progrès dans le vieillissement, si on peut dire, dans l'état vieux. Et bon, bah, la France connaît un vieillissement très accentué et qui va encore s'accentuer considérablement. Et il y a un phénomène tout particulier. Nous vivons actuellement une progression à peu près constante jusqu'en 2005. Il y aura 20% de charges de vieillissement de plus en 2005 qu'aujourd'hui, mais 20% seulement. Et en 2005 commence une explosion du vieillissement. C'est-à-dire que sa vitesse d'accroissement va tripler. Nous allons avoir une espèce d'énorme vague de vieillissement qui va durer jusqu'en 2033. Et ces chiffres, on peut les expliquer très simplement et très clairement. C'est tout simplement le passage dans l'âge de la retraite, dans les 60 ans et plus, des enfants nés en 46.
Après la guerre.
Voilà, après la guerre. Alors, 46.
Du baby boom.
Voilà. 46 plus 60, ça fait 2006. Bah, le tournant s'est fait en 2005. Hein. Il y avait déjà un peu plus en 2005 qu'en 45, en 44. Mais la grande flèche, c'est 46 sur 45.
Bon. Et alors en 60.
Et alors, ça a duré, avec des chiffres très, très satisfaisants, jusqu'en 73. Et il y a eu l'effondrement 74, 75, 76, jusqu'à maintenant. Et cet effondrement n'a pas cessé. Il s'est même accru, puisque nous avons eu, l'année dernière, moins qu'en 1976. Puisqu'il y a eu 8 000 naissances l'année dernière. Et il y en avait le chiffre le plus bas connu dans la période antérieure, c'était 76, avec 720 000 naissances. Donc, la situation s'aggrave. Alors, nous avons une énorme augmentation du nombre des personnes âgées qui débute brusquement en 2005 jusqu'en 2033. Après, c'est le passage de générations qui sont postérieures à 73, pas donc un peu moins nombreuses. Alors, ce phénomène-là a des conséquences absolument majeures sur le plan économique, puisque si vous ne faites rien, vous allez avoir donc 21 millions de personnes âgées, ça c'est les chiffres de l'INSEE, en 2033. C'est-à-dire le nombre des personnes adultes à cotisantes actuelles, à 20, 22 millions, 21 millions, 1 pour 1. Nous allons vers 1 pour 1. C'est-à-dire que le 1 pour 1 fait que chaque adulte au travail aura une personne âgée entièrement à sa charge. Alors qu'en 60, c'était 1 pour 4, 5 et même 1 pour 5 quelques années avant. Donc là, vous avez un problème énorme qui est un problème de charges sociales. Ça double, toutes les charges de retraite vont être doublées, n'est-ce pas ? À moins qu'on effondre les retraites. Mais si on ne les effondre pas, si on les maintient, ça double puisque vous passez de 11 millions à 21 ou 22 millions, n'est-ce pas ? Donc il y a un doublement des charges sociales retraite, mais aussi une augmentation très forte des charges médico-pharmaceutiques vieillesse. Parce que ces charges sont la moitié de la totalité des charges médicales de la sécurité sociale, les charges médicales. Hein. La partie âgée, c'est actuellement la moitié des charges globales médico-pharmaceutiques actuelles. Donc si vous doublez la partie âgée, vous doublez cette partie-là. Vous devenez les 3,5 de la situation actuelle. Donc, vous allez avoir ces fameux prélèvements obligatoires qui sont de 44,5%, ce que vous savez actuellement. Eh bien, vous allez avoir, en doublant la charge des retraites à niveau constant des retraites, bien entendu, mais à moins de dire aux gens, vous allez avoir des retraites détruites, etc., bon, vous allez vivre dans la misère au lieu de vivre comme vous vivez actuellement, point d'interrogation, sur ce plan, vous allez avoir une augmentation énorme des prélèvements obligatoires due justement à ce doublement. Or, on sait que sur le plan économique, c'est un handicap majeur dans la compétitivité internationale. Donc, il y a un danger de défaite économique considérable dans cette chose-là. Donc, il faut enrayer le processus.
Alors, je vais vous poser la question, mais l'enrayer, ça paraît impossible à la lumière des chiffres que vous livrez.
C'est possible, mais ça dépend d'une action immédiate. Je veux dire que un adulte né en 95, un enfant né en 95, aura 20 ans en 2015, n'est-ce pas ? Pour que vous agissiez sur la partie adulte, il faut agir tout de suite, parce que un enfant né en 2013, il a 20 ans en 2033, donc c'est dans la partie qui suit, n'est-ce pas ? Donc vous n'avez que la période actuelle pour redresser la situation. Hein. Et pour la redresser, évidemment, si on veut obtenir le déficit de personnes actives actuellement, vous avez 22 millions à peu près d'actifs cotisants. C'est à peu près le chiffre actuel. Bon, il faut passer à 41 millions ou 42 millions pour maintenir le 1 sur 2. 21 multiplié par 2, ça fait 42. 42 millions. Or, vous aurez, si vous ne faites rien en matière démographique, vous aurez, puisque la fécondité française autochtone, le chiffre, on dit 1,63. C'est déjà dépassé. En 95, on sait que c'est toujours de 1,5 à 1,55. Mais on dit français. Mais on incorpore dans les Français les gens qui ne sont pas des autochtones et qui sont des Arabes naturalisés, qui ont une natalité 2 à 3 fois plus élevée que les autochtones, n'est-ce pas ?
Or, encore pour l'instant, parce que elle diminue elle aussi.
Exactement. Or, donc, ce chiffre-là fait que cette incorporation fait que le chiffre des autochtones européens comme eh bien en France le taux actuel est de à environ 1,4 hein, pour ces autochtones, 1,55 pour les gens de nationalité française, 1,63 pour la population française enfin qui vit en France hexagonale. Bon, donc 1,4, il faut 2,1, vous savez, le chiffre de renouvellement c'est 2,1. Vous avez 2 tiers de renouvellement, il manque 1/3.
C'est-à-dire en chiffres, combien de naissances en plus obligatoires par an ?
Je vais vous le dire. En chiffres, vous avez actuellement la génération 74-94 a actuellement un effectif de 15 millions. Prenons le fameux coefficient de 1,4, c'est-à-dire il faudrait pour avoir 15 millions, il faudrait 2,1 de fécondité. Vous avez 1,4, c'est-à-dire les 2/3. Vous aurez, si vous ne faites rien, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce que le gouvernement actuel fait, c'est-à-dire rien, n'est-ce pas ? Vous aurez 10 millions de descendants de ces générations-là. 10 millions seulement. Et peut-être que ça sera moins que ça, étant donné leur taux élevé de chômage et la précarité de leur situation, les mariages ultra tardifs, enfin, ça sera peut-être encore moins. Donc, on peut prévoir, si on ne fait rien, 25 millions d'adultes pour supporter 22 millions, n'est-ce pas, de personnes
en âge de retraite.
Voilà, exactement. Donc le déficit, puisque si vous voulez maintenir le fameux rapport à 1 sur 2, c'est pas sensationnel, c'est déjà beaucoup trop lourd, mais il faut surtout pas aller au-delà. Sans ça, on arrive à une situation évidemment économiquement intenable.
Alors, est-ce qu'il y a une solution ?
Ah ben oui, il y a une solution. La solution, c'est d'arriver, de faire d'abord les comptes, si vous voulez. Il nous faudrait, pour maintenir le chiffre, le rapport 1 sur 2, population âgée 60 ans et plus sur adultes cotisantes. Le mot cotisant est très important parce qu'il signifie ayant un emploi et payant. C'est pas les faux, les pseudo-emplois. C'est pas les bricoles d'emploi, n'est-ce pas, sous-payés sans cotisants. C'est des cotisants, hein. Attention. Le chiffre total devrait être bien plus élevé que ça. Donc ça montre l'étendue du désastre. Donc il faudrait donc 42 millions d'adultes cotisants pour maintenir le rapport, à 1 sur 2. Et il y en a 25 de prévus. Déficit 17 millions. Alors, il est évident que si vous voulez réparer ça en 20 ans, n'est-ce pas, dans les 20 ans qui viennent, et même pas, puisqu'il y a 18 ans, n'est-ce pas, 2013, après vous jouez sur la période postérieure à 2033, eh bien, si vous voulez réparer ça, il faudrait avoir une natalité qui est inaccessible, n'est-ce pas, puisque nous avons fait des calculs, ça ferait 1 421 000 par an pendant 19 ans.
C'est-à-dire le double.
C'est-à-dire le double de ce qu'on a aujourd'hui. Exactement le double.
Alors même en supposant que par l'opération magnifique d'entraide générale, etc., on arrive à supprimer complètement l'avortement en France, le problème n'est pas résolu.
Non, il n'est pas du tout résolu. Alors, nous restons dans les choses possibles, n'est-ce pas? Il faudrait, si on obtenait sur 1 million de naissances au lieu de 700 000, je fais remarquer que cette augmentation est très inférieure, enfin le chiffre de 1 million pour 58 millions d'habitants est très inférieur au chiffre de 870 000 pour 40,5 millions de 46, n'est-ce pas, ou de 47, n'est-ce pas. Donc voilà, le chiffre de l'époque correspondait à 1 240 000 à peu près par rapport à notre population actuelle. Donc 1 million, ça serait déjà une augmentation énorme. Or, 1 million, ça permettrait de n'avoir un déficit d'adultes que de 8 millions d'adultes. Il manquerait 8 millions d'adultes. Or, je termine la phrase, ce qui veut dire que si nous voulons avoir la même charge retraite par adulte, il faudrait un recul de l'âge de la retraite avec 1 million de naissances de 11 à 12 ans, ce qui est énorme, ce qui prouve l'étendue de la catastrophe démographique actuelle, que tout le monde escamote, n'est-ce pas, dans la classe politique de l'établissement.
Il y a une autre solution, et un auditeur nous le fait remarquer, c'était la solution qui avait été évoquée par M. Attali, qui disait: en tant que socialiste, je suis objectivement contre l'allogement de la vie.
Oui. Nous sommes d'accord.
Cet auditeur nous dit, la solution, si on ne peut pas faire augmenter le nombre de naissances, il faut augmenter le nombre de décès.
Voilà.
Et donc, ça, c'est
l'euthanasie. Nous sommes d'accord, c'est l'euthanasie.
Le gérontocide.
Exactement. C'est-à-dire que la trilogie nazie, c'est-à-dire l'eugénisme, l'avortement et l'euthanasie, c'est la trilogie nazie qui a été appliquée par Hitler en Allemagne, mais dans les pays de l'Est, la Pologne et la Russie, les territoires occupés soviétiques. Ça a été décrit par Valeurs Actuelles il y a quelques années, et j'ai tout le chapitre de cette affaire-là. Eh bien, ça suppose alors une destruction de la population âgée absolument massive.
Parce que vous évoquiez la question de l'eugénisme. Parce qu'en France, on a l'impression, on a l'habitude de nous dire, mais ça n'a rien à voir. L'avortement, c'est la liberté de la femme. Donc ça n'a rien à voir avec les méthodes nazies, et notamment l'eugénisme n'est pas appliqué, ce qui est un mensonge.
C'est un mensonge, c'est l'article 162.12 de la loi Veil,
c'est exactement
l'eugénisme. Il est dedans depuis 19.
On l'a intégré dans l'avortement, on n'appelle plus ça l'eugénisme, mais quand on fait un examen de liquide amniotique et qu'on découvre dedans preuve que l'enfant risque d'être mal formé, on tue l'enfant.
Voilà.
Il arrive qu'on s'aperçoive après, au moment où on l'a tué, finalement il n'avait rien. C'est une erreur de diagnostic, c'est pas grave. On croyait que c'était une tumeur maligne, c'est une tumeur bénigne, mais il n'y a plus de tumeur, c'est l'essentiel, quoi. En gros, c'est ça. Et maintenant, il reste à appliquer le troisième volet, qui est le gérontocide.
Notre mouvement défend la vie de la conception à la mort naturelle, et il insiste beaucoup là-dessus, parce que il y a le problème de l'euthanasie qui pose des questions fantastiques. Enfin, ça, on n'a pas le temps de le développer maintenant. Mais enfin, je veux dire par là que la situation démographique entraîne des conséquences économiques négatives d'une gravité exceptionnelle, puisqu'elles détruisent la compétitivité activité économique, n'est-ce pas, par augmentation des prélèvements obligatoires. Si vous ne faites rien, pas. Si vous faites quelque chose, vous pouvez enrayer. Mais même en faisant un effort considérable, avec 1 million d'essences, vous aurez quand même, il faudrait retarder de 11 à 12 ans l'âge de la retraite, ce qui est énorme. Parce que on peut très bien comprendre qu'une personne de 75 ans travaille très bien, même actuellement, mais entre travailler chez soi et lire et écrire et faire des choses, et puis prendre le métro le matin à 7 heures et la même chose après, oui. Ça c'est une autre paire de manches.
J'ajouterais que c'est tout à fait concevable de faire travailler les gens qui veulent travailler jusqu'à 75-80 ans. Il y a des gens qui aiment leur métier,
il y a des gens qui le font. Mais enfin, ça, c'est pas avec les obligations d'un travail.
Certainement pas à la chaîne. Voilà. Et en plus, certainement pas dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs.
Exactement.
Docteur, ce que je vous propose, c'est de revenir une troisième fois pour nous expliquer le dernier, un troisième aspect très intéressant de votre étude, c'est l'aspect financier.
Oui.
Je vous propose de le développer dans 15 jours, si vous voulez.
Oui, très volontiers.
Parce que vous faites la démonstration.
Il y a des possibilités d'action et des possibilités qui rapportent de l'argent à la nation, n'est-ce pas ? Et qui ne sont pas coûteuses, comme on l'a dit, on ne fait rien parce que ça coûte cher. Ça n'est pas vrai. Ça coûte cher si c'est petit. Si c'est une politique inefficace, elle coûte cher. C'est certain.
Alors,
si
elle est efficace. De revenir nous en parler dans 15 jours. D'ici là, on peut prendre connaissance de votre travail. Alors, ça n'est pas le seul que vous avez fait, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le numéro 59 de la lettre de l'UPN. Mais je crois que le plus simple, c'est de vous écrire à l'UPN.
Oui.
Alors, j'ai déjà dit qu'on était voisins. Vous êtes 139 boulevard de Magenta, comme le livre journal. Et on peut avoir tous les renseignements sur cette association, sur cette lettre, sur le numéro spécial politique familiale démocratie française. On peut recevoir ce document, qui est tout à fait intéressant, et qui apporte des arguments très très solides dans le débat sur l'avortement, la natalité et la démographie.
Très bien.
Merci docteur Tremblay. Alors à dans 15 jours.
Entendu.
Et puis, comme prévu, comme promis, pour essayer de convaincre nos auditeurs de la qualité formidable de cette musique, je voudrais qu'on entende, alors cette fois-ci, Guillaume Tell. Je vous épargne la suite parce que c'est le commentaire d'une course hippique. Bon, enfin, je suis désolé pour le petit bruit qui suivait le gargarisme. J'avais oublié ce détail sonore. Sur Radio Courtoisie, effectivement, c'est un peu dépassé. Mais enfin, écoutez, on a tous été militaires. Hein. Donc,
Au revoir, je le jure.
Oui, non ?
Non, non.
Enfin, vous en avez connu.
Oui, j'en ai connu.
Ah ben voilà, elle a avoué, ça y est, enfin. À propos de militaire, Gérard Delasse, est-ce qu'il faut encore vous appeler mon capitaine ou est-ce que...
Ben ça dépend si on veut impressionner les grands ou si on parle au peuple. Oui. Au peuple, non, il vaut mieux m'appeler Gérard. Mais...
Bon. Hein ? Alors, je vais vous appeler Gérard, puisqu'après tout, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'appeler un officier par son prénom. Enfin, moi, j'ai pas été élevé comme ça. Donc, Gérard Delasse, vous êtes un personnage qu'on pourrait dire atypique. Hein. C'est-à-dire que vous étiez officier
dans l'armée française. Et puis en 73, vous avez pris ce qu'on pourrait appeler un bœuf. Comme ça qu'on dit, hein, même dans l'armée, je crois.
Dans l'armée, on nous dit qu'on est des bœufs. Et ça, c'est pas tellement.
Ça, c'est autre chose. Je crois pas que vous soyez tellement un bœuf. Non, en tout cas, vous avez pris un coup de sang. Alors, qu'est-ce que racontez-nous, présentez-vous, si vous voulez. Racontez-nous ce qui s'est passé en 73.
Ben voilà, j'étais en Allemagne avec ma famille. Et j'étais capitaine là-bas dans un état-major de brigade. Et un soir, je faisais une permanence de brigade. À 2h du matin, je suis réveillé par l'international chanté par la compagnie de brigade, de la 3e brigade en Allemagne. Une internationale vibrante. Alors j'ai fait le numéro du général, j'ai ouvert la fenêtre, et puis quand je l'ai réveillé, j'ai dit, bon général, écoutez, c'était le général Laurier, c'est un homme que j'aimais beaucoup, et il écoute un instant, et je lui ai dit, vous avez entendu mon général? Et il me dit, oui, laissez-moi dormir. Alors le lendemain, je suis allé le voir, et j'ai dit, mon général, jusqu'à quand on va laisser se détériorer le service militaire? Jusqu'à ce qu'on nous tire dans les fesses? Il y a une haine terrible dans notre caserne, il y a des gens qui rentrent dans la caserne pour apprendre à nos soldats à désobéir. Enfin, là, j'ai attrapé un coup de sang, vraiment, et puis un jour, j'ai un de mes chefs scouts, parce qu'avec mon épouse, nous faisions du scoutisme là-bas, et avec un jeune soldat qui était chef scout avec moi, et bien ce soldat s'est fait casser la gueule par ses camarades de chambrée parce qu'il s'occupait des fils de crevure. Hein? Alors j'étais une crevure. Et alors ça, j'ai eu mon coup de sang et je suis allé retourner voir le général Laurier et j'ai dit, mon général, il faut changer le service militaire. Alors il m'a dit, moi je suis un trop vieux général, il faudrait faire de la politique, j'ai les pieds et mains liés, c'est pas possible. Alors je l'ai salué et j'ai dit, mon général, ce seront vos capitaines qui feront de la politique. Et j'ai attendu qu'il soit parti. Il partait fin juillet 73 et début août, j'ai sorti une lettre ouverte pour dire ce malaise qu'il y avait là-bas. Et j'ai attrapé, pour toute réponse, 30 jours d'arrêt de rigueur, mutation disciplinaire à Metz, barré du grade du tableau d'avancement où je devais être nommé commandant.
Il faut dire aussi que voilà. Vous n'étiez pas allé avec le dos de la cuillère dans votre lettre ouverte. On ne peut pas dire que c'était fait pour certainement accélérer votre promotion.
Non, mais là, c'était le début. C'était pas grave. C'est que j'ai donc été muté à Metz et là, j'avais plus rien à
parce
faire.
Parce que vous leur dites carrément, pardon de vous couper, mais enfin, ouais. Le journal qui avait publié cette lettre ouverte avait intitulé ça « Un pavé contre cette galère », galère étant écrit selon l'orthographe de Gallet, qui était à l'époque le ministre des Armées.
Oui, non, mais ça, c'est
plus tard, ça.
C'est plus tard, ça.
Ouais. Moi, c'est... Mais en tout cas, vous dites carrément, depuis 15 ans, l'armée française est empoisonnée par le mensonge comme le reste de la nation. En plus, vous enchaînez en disant cela a commencé par la si belle attitude, entre guillemets, du général de Gaulle vis-à-vis de son armée dans l'affaire algérienne. Il n'est pas utile d'insister. Enfin, etc., etc. Donc, c'était clair que c'était une rupture volontaire. C'était une passion qui s'arrêtait. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que je ne pouvais plus obéir. Hein? Mais, alors il fallait qu'on...
Pour quelle raison étiez-vous devenu officier?
Ah, moi, mon père m'avait appris à aimer mon pays. Et j'étais officier pour non pas pour faire la guerre, mais pour apprendre aux jeunes Français à se défendre si un jour on était attaqué.
Et vous étiez surtout... d'une famille de
Non, mon père était industriel, mais j'avais beaucoup d'oncles et mon grand-père était militaire. Oui. Oui. Et alors, moi j'aime beaucoup mon pays, vous voyez, et je l'aime toujours, j'ai 59 ans, je suis marié depuis 36 ans, et j'ai 6 enfants, 9 petits-enfants, et tous mes fils sont très, très... Comment dire, pas militariste, j'aime pas ce terme, mais ils aiment l'armée, ils sont tous officiers de réserve les uns après les autres, sauf un qui a loupé le concours des ER, et c'est ce qui m'a déclenché l'année dernière une réaction très vigoureuse. Il était au 3e RI, à Nîmes, et comme 2e classe, et là, avec mon épouse, on était obligé de le soutenir. Il y avait une ambiance dans cette caserne épouvantable. Alors l'année dernière, j'ai repris mon bâton de pèlerin pour aller dire maintenant, moi on m'a fait du mal comme capitaine et maintenant on abîme un de mes enfants, alors ça ne peut pas durer. Alors, je suis reparti à travers la France pour demander de nouveau cette réforme du service militaire. Alors, je ne sais pas si je peux en parler un peu.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là, parce que donc depuis 22 ans, on ne peut pas dire que les choses se soient améliorées. Vous avez quitté l'armée parce que vous étiez scandalisé, excédé par la dégradation du service militaire, du service national, qui était soi-disant une des grandes conquêtes de la Révolution. Et puis 22 ans plus tard, vous vous apercevez à la faveur, si j'ose dire, du service militaire d'un de vos fils, que c'est pire encore, ou que ça n'a pas changé vraiment.
Oui, non, mais c'est pire.
Donc
c'est
vous en pire. Êtes pour... Vous dites le service militaire, il faut le changer ou le supprimer.
Voilà, si vous voulez. Moi, il y a un constat d'abord, c'est que c'est la pire des injustices dans une république. Il y a trois choses qui vont pas. D'abord, il y a entre un quart et un tiers des jeunes qui font pas leur service. Ensuite... Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, vous avez une deuxième injustice énorme et qui correspond maintenant à des classes sociales dues au diplôme. Alors, vous savez, les bacs plus 3, 4, 5 ne font plus leur service dans les casernes. Hein. Vous avez toute une série de façons de faire votre service, soit civil, soit militaire. Soit à la coopération, soit en entreprise. J'ai un fils d'un ami qui fait son service en entreprise, hein, service national en entreprise, en Corée. Il gagne 16 000 francs par mois pendant 16 mois. Et il a emmené sa fiancée là-bas. Ah, et il fait son service. Vous voyez, et moi, mon fils était à Nîmes et il gagnait 400 francs ou 500 francs par mois. Il fallait qu'on lui paye le train. Bon, alors il y a une injustice énorme. Les jeunes sont divisés en classes sociales en fonction de leur niveau intellectuel. Et au lieu que le service militaire soit un temps de cohésion nationale, c'est un temps de division. Et c'est plus grave que ça encore, c'est un temps où on les rend antimilitaristes et donc pas du tout intéressés par la nation française. Ils s'en foutent. Quand ils sortent de là, ils demandent qu'on les laisse en paix. À part quelques exceptions, dans certains régiments qui fonctionnent bien, certaines unités paras ou alpines, hein. Mais l'ensemble, si vous voulez, du service militaire à l'heure actuelle est horriblement mal fait. Et alors, ce qui est beaucoup plus grave, et qui va un jour nous valoir des ennuis, c'est que vous avez à l'heure actuelle une dérive civile. Petit à petit, les armées ayant de moins en moins de besoins, eh bien, on pousse les jeunes dans des formes civiles du service. Et ça plaît beaucoup aux jeunes, parce qu'ils disent « chouette, je vais pas dans une caserne ». Oui, mais ça, je dis, il va falloir porter plainte contre ce service civil.
C'est illégal, vous le dites.
Parce que on est en train de mettre des jeunes qui ne sont pas payés à la place d'autres jeunes qui pourraient avoir un boulot. Je vous donne un exemple. Dans un lycée dont je tairai le nom, d'État, il y avait 7 places pour des étudiants payés 4000 francs par mois des places de pions. Eh bien, ils ont, dans ce lycée, ils en ont supprimé une, il n'y en a plus que 6. Il y en a 2 qui sont encore payés 4000 francs. Il y en a 2 autres qui ont été prises, les places ont été prises par des contrats emploi solidarité. Et les 2 suivants sont des jeunes du service national. Voilà. Alors, petit à petit, on va prendre la jeunesse de France pour la faire travailler obligatoirement. Or, on n'a pas le droit de faire travailler obligatoirement des jeunes dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la défense nationale. Il y a une loi qui l'interdit.
Je comprends. Mais ça, c'est ouais. Bon. Je dirais, c'est presque du juridisme. Le problème de fond, est-ce que vous avez à lui apporter une solution? Parce que oui. La vérité, c'est que il n'y a plus aucun esprit, sauf, je dirais, dans nos familles. Il n'y a plus d'esprit patriotique du tout. Maintenant, patriote, patriotique, c'est un mot cochon.
Alors, bon. Il faut... Oui.
Alors, la haine de l'armée est une chose installée, la haine méprisante de l'armée est une chose installée partout. C'est considéré comme le moindre des choses. Donc, comment voulez-vous imaginer que des jeunes gens qui n'ont aucun sens de la nation, aucun sens de la patrie, aucun sens du respect de la tradition des hiérarchies, puissent s'intéresser au service militaire, alors que par ailleurs, ils ont la démonstration par les contacts avec leurs frères, leurs aînés, que l'armée actuelle est une gigantesque foutaise.
Oui, c'est une...
Des officiers qui sont, je dis pas tous, mais enfin majoritairement des fonctionnaires planqués, qui veulent surtout pas avoir d'histoire.
Oui, là, vous êtes. Enfin, on va vous taxer d'antimilitarisme.
Bah, je suis d'une famille de tradition militaire depuis 20 générations. J'ai été 10 ans en école militaire, donc au moins, moi, quand je parle de l'armée, je sais de quoi je parle. Je peux en parler, c'est vraiment. Et mon fils vient de sortir du service militaire, là, il y a quelques semaines, quelques mois plutôt. Je leur ai donné un garçon qui était routier, qui était en adoration devant la patrie, qui avait un respect forcené pour tout ce qui était l'armée. Ils m'ont rendu un garçon qui est totalement écœuré, qui considère que les militaires sont globalement des imbéciles et généralement des salauds, et qui est totalement écœuré parce que, sous prétexte qu'il avait une toute petite séquelle d'une blessure au genou, on lui a interdit de faire du parachutisme en lui disant, tu comprends, on n'a pas envie qu'après tu nous fasses payer les pensions.
Voilà.
Si, sous prétexte que tu auras acquis cette cicatrice à l'entraînement, on lui a fait faire son service militaire les jours de formation, enfin, les premiers jours, les classes, on leur donnait pas de couvert à table. Ils étaient obligés d'apporter leur propre couvert. Et on leur disait, il n'y a pas de fric. Bon, c'est honteux la façon dont le service militaire.
Alors on est d'accord. Voilà. Si vous voulez. Alors moi, voilà ce que je propose. Et c'est le moment.
Quand vous dites ça aux officiers, ils vous disent, oui, mais c'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour régler ça.
Les officiers généraux, hein. Moi, je suis allé voir des amiraux, chefs, grands chefs et très grands chefs. Et des généraux chefs, ils s'en foutent complètement. Et moi, je voudrais dire là, hein, que ça ne peut pas durer de faire monter dans les hiérarchies de notre pays des gens qui deviennent de moins en moins responsables, hein, alors qu'ils devraient au contraire l'être. Bon, moi, ça me blesse. Alors, si vous voulez, on va pas parler de blessures là. Alors, moi, voilà ce que je propose.
Gérard Delmas, ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole dans une minute, mais on va faire ce qu'on appelle chez nous le renversement de cassette. Je sais pas, il y a une opération technique qui nous oblige impérativement à arrêter à 7h30. Donc,
on a combien
hop, 2 minutes de suspension, puis
alors,
après, vous avez tout.
Alors, je reprends, André, après. Donc, il y a 2 choses à faire. Il faut que les futurs présidents, là, qui se présentent, prennent position sur ce problème de toute urgence. Hein. Alors, soit on va trouver des volontaires pour le service militaire, pour les unités d'actives, des volontaires qu'on va payer plus ou moins, soit on réforme complètement le service militaire, hein, mais on en fait quelque chose de chouette. Et c'est de ça dont je voudrais parler après.
Bien, on en parle juste après.
Un message de Michel de Gégère, journaliste, écrivain, vice-président de Renaissance catholique, directeur des hors-séries du Figaro.
Dans un monde où on n'a que la liberté à la bouche, Radio Courtoisie est un des rares lieux où cette liberté correspond à une réalité. Et il me semble que dans les 20 dernières années, c'est peut-être la seule vraie victoire de notre famille politique, d'être arrivé à instituer cet espace de liberté où toutes les sensibilités peuvent s'exprimer dans un amour commun de la France, de la langue française, de nos ancêtres, de notre pays.
C'était un message de Michel de Gégère, journaliste, écrivain, vice-président de Renaissance catholique, directeur des hors-séries du Figaro. Soutenez Radio Courtoisie, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net.
Et sans plus tarder, voici la deuxième partie du document d'archives de Radio Courtoisie, le libre journal de Serge de Beketch du 15 mars 1995. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 3h31.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Beketch, datant du 15 mars 1995, assisté de Victoria. Cette émission est diffusée dimanche 29 août 2010 dans les nuits de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de ce libre journal. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Gérard Delas, je rappelle que vous êtes officier, parce qu'on est officier à vie, comme prêtre ou médecin, et que vous avez quitté l'armée maintenant depuis 20 ans, que vous vous consacrez à une tâche qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais là, on parlait avec vous, vous nous parliez plutôt de la nécessité, de l'urgence d'une véritable réforme en profondeur du service militaire. Et vous nous disiez, il y a deux solutions.
Ou on le supprime.
Ou on le supprime totalement.
Ou alors on le réforme complètement.
Alors, quelle réforme vous proposez-vous ?
Alors, je ne parle pas donc de la suppression. Hein. Ils ont qu'à le décider en haut lieu, les hommes politiques. S'ils veulent utiliser des soldats de métier, c'est leur problème.
Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour l'instant, comme on s'en sert comme d'une espèce de réservoir de décantation pour éviter un trop grand nombre de chômeurs...
Voilà, oui, c'est une annexe de l'ANP. Bon, alors, si vous voulez, moi je propose et je demande qu'on réforme le service national. Et de quelle façon ? Eh bien, d'abord, je pense qu'il faut le raccourcir. Ça va faire plaisir. 3 à 6 mois maximum.
Mais vous avez beaucoup de spécialistes qui disent que c'est ridicule.
Non, mais vous allez voir.
Ça n'a plus de sens.
Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, là. Alors, 3 à 6 mois. Sortir ces jeunes des casernes. Les mettre dans des camps légers à la Delattre, en pleine nature. Et Dieu sait si en France, il y a des zones qui sont de plus en plus laissées à l'abandon. On les met là dans des camps légers avec de très jeunes officiers. Et on leur fait vivre ces 3 ou 6 mois dans une ambiance militaire, certes. Sportive énormément et sociale par rapport à la petite bourgade proche. Mais surtout au niveau social, moi je voudrais que ces 3 à 6 mois de service soient une immense école d'amitié pour la jeunesse. Et là je sais de quoi je parle parce que depuis 20 ans je m'occupe d'un centre de jeunesse qui s'appelle le Refuge Guillaumet à Saint-Pé-de-Bigorre dans les Pyrénées. Et dans les Hautes-Pyrénées, et j'ai vu passer 4000 jeunes de 18 à 35 ans, et je peux dire aujourd'hui une chose dont je suis sûr, c'est que notre jeunesse n'est abîmée qu'en superficie. À l'intérieur, on ne peut pas abîmer le cœur d'un être humain. C'est cette zone vierge, toutes les politiques les plus dégueulasses qui soient n'y toucheront pas. D'abord parce que je crois que Dieu habite ses cœurs, et cette jeunesse, quand on sait aller la chercher profond, eh bien on découvre qu'elle a une soif fantastique, une soif de beau, une soif de vrai, une soif d'aimer, d'être aimé, une soif de liberté d'être, une soif de communication, de solidarité, d'engagement pour quelque chose qui vaut la peine. Notre jeunesse n'est pas morte. Moi, je veux crier ça parce que j'en suis sûr. Alors, moi, je dis, si on leur faisait faire un service militaire de 3 à 6 mois, dans des conditions très sportives, en pleine nature, loin des villes. Ces casernes, c'est des lieux de déperdition, hein, de dépersonnalisation. Et je veux bien qu'elles servent pour les unités d'actives, mais qu'on ne me mette pas les jeunes du service national là. Alors on les met donc dans la nature, on leur fait faire le service entre 17 et 19 ans, c'est-à-dire juste après le bac, et ceux qui sont en formation professionnelle, entre 17 et 19 ans.
C'est quoi, affreux. Ça fait penser ce que vous dites?
Oh, je sais ce que vous avez dire, et si vous me dites ça, vous m'abîmez mon projet.
Bon, je dirais
alors ne le dites pas. Moi, je vous dis que faire ce service national à la méthode de l'âtre...
Oui, c'est bien, ça aussi. C'est,
je dis bien c'est de ça. L'âtre. Hein, eh bien... En l'espace, et donc de 17 à 19 ans, juste après le bac, permettrait aux jeunes de prendre un temps de recul par rapport à leurs études, de réfléchir pour savoir s'ils veulent aller vraiment en faculté, ouais, et ça leur ferait beaucoup de bien, mais c'est lamentable de faire un service à 24, 25 ans, quand on commence à vouloir se marier, qu'on vient de trouver un bon boulot et qu'on va le perdre parce qu'il faut aller faire son service. Il faut le faire jeune, et... Et alors, la finalité de ce service serait non pas l'apprentissage de la guerre, hein, mais la découverte de la joie de vivre, de l'amitié vraie née dans l'effort, hein, et aussi, bien sûr, de la nécessaire cohésion d'un peuple pour assurer sa défense en cas de danger. Voilà le but, ça serait des classes, si vous voulez, voyez.
Et c'est aussi une forme de scoutisme, parce que ce que vous venez d'indiquer,
c'est les
fondements du scoutisme.
J'ai été scout et chef scout, oui. Mes gosses ont fait du scoutisme, j'ai une expérience là, si vous voulez, et c'est exactement ça. Il faut plonger les jeunes dans la nature et leur faire vivre ensemble une expérience belle. Vous comprenez?
Et comment expliquez-vous que des évidences, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous,
Des évidences.
Clairement, j'ai toujours pensé ça, j'ai même collaboré à des opérations de ce genre, mais on s'est toujours heurté au mieux à l'indifférence des pouvoirs publics, et beaucoup plus souvent, en général, à une hostilité déclarée, pointilleuse, vicieuse. Il n'y a qu'à voir le sort... subi par le village de Riaumont pendant des années, qui a fait l'objet d'une traque, d'une campagne de calomnie abominable, alors que c'est une œuvre splendide, et dont les enfants sortent comme ça, comme vous venez de l'expliquer, avec cette conception complètement épurée de l'existence, avec cet amour de la vie, cette joie de vivre, cette rigueur, cette richesse intellectuelle, spirituelle, morale, etc. Bon, comment expliquez-vous que l'autorité, quelle qu'elle soit, est toujours l'autorité politique, l'autorité municipale, l'autorité scolaire, a toujours manifesté une hostilité totale à ce genre de projet, à ce genre de réalisation?
Alors c'est tout simple. Nous sommes dans un système qui date peut-être de la Révolution et qui est le système du pouvoir. Le pouvoir et l'autorité, c'est deux choses tout à fait différentes. Le pouvoir écrase, l'autorité fait exister. Nous sommes dans un système de pouvoir et vous savez que le pouvoir, pour se maintenir, a une règle fondamentale, c'est diviser pour régner. Donc si vous faites faire des choses chouettes à la jeunesse, eh bien, quand les jeunes font des choses chouettes ensemble, ça crée des solidarités, ça crée cette fameuse amitié. Vous savez, moi, mon refuge Guillaumet s'appelle « C'est une école d'amitié ». Eh bien, depuis que j'ai inventé cette école d'amitié, c'est là que j'ai le plus d'ennuis. Je dérange les hommes de pouvoir, qu'ils soient militaires, politiques, voire religieux. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple avec un pouvoir si ce peuple est solidaire. Donc il faut systématiquement détruire toute solidarité et tout jeune. Et c'est ce qui se passe à l'éducation nationale. On met les gosses dans une telle ambiance qu'ils ne peuvent pas créer de lien d'amitié. Ce sont de vagues copains et on ne peut pas aller plus loin. Alors moi, si vous voulez, mon expérience là, de 20 ans de refuge Guillaumet, c'est une expérience formidable.
Est-ce que vous ne croyez pas, Gérard Delas, que
au moment où arrive le temps du service militaire, c'est déjà trop tard. L'abbé Caillon disait, un enfant est achevé d'imprimer, je crois, à 4 ans, on le disait, hein, je crois que c'est ça, docteur. À 4 ans, un enfant est achevé d'imprimer. Bon, 15 ans plus tard, à 19 ans, ou 18 ans,
alors,
son service militaire,
alors c'est vrai
il n'est même pas imprimé, il est chiffonné.
C'est vrai que, non, il est chiffonné, et il y a beaucoup de cendres sur la braise, mais dessous la cendre, il y a de la braise. Et moi, je peux vous dire, avec des stages de 7 jours, hein, parce que je fais des stages de 7 jours, donc avec des jeunes, garçons et filles mélangés, où on les plonge dans la nature dès qu'ils arrivent, une nature sauvage et belle. On monte en montagne, on court dans les buis, on plonge dans les ruisseaux, on fait de la spéléo, enfin c'est très vigoureux physiquement.
Quel pourcentage de perte ?
Aucune.
Dieu merci.
Aucune. Eh bien, nous vivons une expérience formidable parce que le but c'est pas le sport, le but c'est la rencontre. Et nous favorisons donc, ce sont des petits groupes, c'est pour ça que nous sommes dans mon système, le refuge Guillaumet, a pour but, si vous voulez, de faire naître le Guillaumet qui sommeille en chacun de nous. Je ne sais pas si
faut rappeler
les auditeurs
qu'il y a Guillaumet quand même,
ont c'est... lu Saint-Ex, et en particulier l'histoire de ce Guillaumet qui est tombé dans la Gordillère des Andes, et qui a dit, alors on cite cette phrase, « Nulle bête au monde, ce que j'ai fait, nulle bête au monde ne l'aurait fait », mais ce n'est pas cette phrase qui m'intéresse. La phrase de Guillaumet, il savait qu'il pouvait pas, qu'on viendrait pas le chercher au milieu de la cordillère, et il savait que s'il voulait en sortir vivant, il fallait qu'il marche. Alors il est parti plein est, et il a marché 4 jours et 3 nuits, par moins 40 la nuit, et il en est sorti vivant. Et vous savez pourquoi il en est sorti vivant? Saint-Ex, qui l'accueille à la sortie, lui dit, mais qu'est-ce qui t'a fait tenir? Eh bien, Guillaumet lui dit, tu sais...
Si je tiens pas, c'est que je suis un salaud.
Oui.
C'est admirable.
Tu sais... Mes amis, je pensais tous les jours, je pensais que ma femme et mes amis se disaient, si Guillaumet est vivant, il marche. Et moi je me disais, Guillaumet, si tu marches pas, t'es un salaud. Je voudrais aller hurler ça à la jeunesse de France. Guillaumet avait la conscience de sa valeur. Il savait qu'il était une perle unique et rare, comme nous sommes tous, et il savait que cette perle, eh bien, il devait la redonner à ses amis, sinon ses amis seraient malheureux. Eh bien, il a inversé la chose. Il n'a pas attendu la cordée de secours. Il est sorti lui-même. C'est lui qui a fait la cordée de secours, tout seul, pour se redonner à ses amis. Si je marche pas, je suis un salaud. Moi, je trouve ça formidable.
Oui.
Alors je voudrais qu'on apprenne ça à la jeunesse, voyez, hors politique. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis dans une radio qui est bien marquée politiquement. Moi, je vais partout. J'espère qu'on m'en voudrait pas, mais je tiens le même langage partout. Et je voudrais vous dire que dans mon refuge viennent des jeunes motivés. Hein. Je ne reçois pas des jeunes à problème, hein, psy, parce que je suis pas un psy. Hein. Et il vaut mieux pas qu'ils viennent. Je reçois des jeunes qui ont soif de changer cette société. Eh bien, je découvre des jeunes. De tous les bords politiques, de toutes les obédiences religieuses qui viennent chez nous, eh bien j'arrive à en faire des amis. Je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de centres en France qui réussissent à faire se rejoindre des gens qui ont tout pour se taper dessus. Vous voyez ? J'ai eu des jeunes, vraiment, en ce moment par exemple, je reçois pas mal de jeunes qui viennent soit de témoignages chrétiens, soit de familles chrétiennes. Vous voyez qu'a priori c'est pas la même formation. Eh bien, vous me disiez tout à l'heure qu'un jeune, il est abîmé. Non, il n'est pas abîmé. Si on va le toucher au cœur, vous entendez ? Eh bien, il reprend feu. Le fameux feu que le Christ a dit un jour, « Ah, comme j'aimerais que ce feu se soit répandu. » Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Vous voyez ? Au refuge Guillaumet, j'ai découvert quelque chose de formidable, c'est que ce feu-là, on pourrait le rallumer assez rapidement, si on voulait bien. Hein ? Et alors, moi, je crois une chose, et c'est mon cri, là, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais c'est mon cri, un de mes cris que je voudrais pousser ce soir, c'est que l'homme est beau, l'homme et la femme, on le croit pas assez. L'homme est formidablement beau, mais il est abîmé par ce que j'appelle une carapace. Une carapace d'orgueil cruel et bête. Et moi, au refuge Guillaumet, nous apprenons aux jeunes à découvrir cette fameuse carapace. Vous voyez ? Et si on pouvait faire ça au niveau politique, cher monsieur, si on pouvait apprendre à nos hommes politiques en ce moment, ceux qui se présentent aux élections présidentielles, si on pouvait leur apprendre un peu à s'écouter. C'est insupportable de voir cette inondation de paroles qui ne veulent rien dire et qui nous font du mal à tous. Je viens du fond de la province et je voudrais vraiment demander à tous ces hommes politiques qui se présentent de nous parler un langage du cœur. Les Français en ont marre de ce langage économico-abrutissant. Hein. Alors si vous pouviez le hurler un peu plus fort, ça.
Moi, je veux bien crier encore plus fort, mais je pense que je vais y perdre ma voix.
On en a.
Je crois qu'il y a au moins un homme politique. Ça, c'est mon opinion. Je la donne à titre d'opinion personnelle. Je suis pas forcé. Vous n'êtes pas forcé de la partager. Mais je crois qu'il y a au moins un homme politique qui là-dessus tient un langage qui n'est pas le langage fabriqué automatique des autres. Qui dit ce qu'il a à dire et qui parle beaucoup avec son cœur et qui parle d'amour et de passion.
Je sais de qui vous voulez parler. Alors, je voudrais, par votre intermédiaire, lui demander qu'il s'exprime, lui aussi, sur le problème de cette jeunesse et du service national. Je lui demande en grâce. Il faut au moins qu'il y ait un homme qui lâche ce pavé avant les élections. Il faut qu'on change ce service avant qu'on ait des pépins dans les casernes. Vous entendez? Parce qu'on va avoir des pépins dans les casernes. Je le tiens d'un général, dont je tairai le nom ici, parce que c'en est un qui est chouette. Eh bien, il m'a dit, Gérard, il y a déjà des problèmes dans certaines casernes et ça peut devenir grave. Il y a des casernes où il y a un effectif de banlieusards entre guillemets très important et on peut très bien avoir une réaction de casseurs un jour ou l'autre, vous voyez.
Et alors justement là à ce propos, là, on m'envoie par fax une note du général Maurice Febvre, qui est docteur en sciences politiques, chargé de chronique à Défense nationale, sur les services nationaux des immigrés et doubles nationaux. Bon, je peux pas en donner lecture ici parce que j'en ai pas pris connaissance, mais c'est nos amis de Jeune Pied Noir qui m'adressent ça, et je pense que on pourra revenir sur cette question dans une autre occasion. Un auditeur nous parle d'un régiment. Alors vous savez, on en est arrivé au stade où je n'ose même plus citer les choses parce que ça attire des ennuis à tout le monde. En tout cas, il nous dit il y a un régiment qui ressemble à s'y méprendre à ce que propose Gérard Delasse. On y fait ce qu'il propose.
Ah ben j'aimerais le connaître.
Je vais vous donner le papier. Il indique quel régiment c'est, mais je ne veux pas le donner à l'antenne parce que je suis sûr que le chef de corps va se faire tirer les oreilles. Et puis un auditeur, on a beaucoup d'appels hein, à propos de votre intervention. Un auditeur nous dit les anciens du prétané militaire, lorsqu'ils sortent des grandes écoles, donnent les meilleurs éléments de l'armée. Le scoutisme en temps de formation, est-ce qu'il y a de mieux pour redonner les sciences civiques et morales et former des élites? Ce qui est le meilleur moyen de régler les problèmes des banlieues. Je crois que c'est tout à fait ça. Et c'est très curieux de voir, enfin c'est pas très curieux, c'est très significatif de voir à quel point la question de ce qu'on appelle les banlieues, pour rester politiquement correct, est présente dans toutes les interventions de nos auditeurs à propos de l'armée. Et on sent vraiment que là, il y a une cristallisation du malaise, et que effectivement, les choses peuvent évoluer assez rapidement. D'une manière très grave, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Gérard Delasse. Alors, je vais vous rendre votre liberté parce que vous avez un train à prendre, mais je voudrais donner les renseignements sur le refuge Guillaumet, qui est un centre d'activité de pleine nature que vous avez fondé, que vous dirigez, que vous animez. C'est ouvert toute l'année.
Voilà.
C'est à Saint-Pé-de-Bigorre.
Dans les Hautes-Pyrénées.
C'est-à-dire dans les Hautes-Pyrénées, autrement dit, c'est le. Un des plus beaux endroits du monde.
À 10 km de Lourdes.
Oui, en plus, on peut aller faire un tour. Alors, vous dites, ce n'est pas un organisme confessionnel, mais son équipe animatrice constituée en communauté chrétienne est convaincue de l'urgence pour l'homme de retrouver sa dimension spirituelle. Et ce sont des stages qui s'adressent aux hommes et femmes à partir de 18 ans.
Voilà.
Qui durent une semaine. Ils sont assez durs physiquement. Hein.
Il faut pas être handicapé physique, hein. Ça c'est sûr. Mais il faut pas non plus être un champion. Il faut simplement être en bonne santé, voilà, et avoir envie de faire un effort qui peut durer 5 heures, hein, des randonnées de 5 heures, voire un petit peu plus. Mais il faut bien que les gens sachent que ce n'est pas le sport qui est le but. Le sport n'est qu'un moyen d'établir une communication très profonde, de manière à créer ces liens d'amitié et surtout donner goût à créer ces liens d'amitié au retour. Vous voyez, nous avons une ambition c'est de pousser les jeunes qui viennent chez nous à se battre un peu plus pour que notre société redevienne une société de communication, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors ça se passe dans un refuge à Peyrasse où qu'on voit, vous en donnez la photo, on a envie de partir tout de suite.
Oui,
le coin est magnifique.
C'est très beau.
Il n'y a pas la télévision. Hein.
Non.
Ça, c'est dommage. Autrement, je serais allé.
Non, il y a un poste de télévision avec des cassettes de temps en temps, des films chouettes, mais il n'y a pas.
Alors, un auditeur nous dit j'habite à Vic, à Bigorre, et je ne trouve pas que c'est un trou perdu. Vous avez fait de la peine à quelqu'un.
Mais je n'ai pas dit que c'était un trou perdu.
Non, c'est peut-être moi qui ai dit ça.
Ah, oui, alors.
Non, j'ai dit que c'était le plus beau pays du monde.
C'est un massif d'une beauté merveilleuse et voilà. On a beaucoup de chance.
Alors, je donne l'adresse et le numéro de téléphone, si on veut vous appeler.
Oui.
Donc, si on appelle de Paris, on fait le 16. Si on appelle de Chartres, du Mans, de Cherbourg, de Corps et du Havre, on fait le numéro directement. Et ce numéro, c'est 62 41 82 43. Ça s'appelle le refuge Guillaumet. Le patron, c'est Gérard Delas. Le patron, le boss, le chef, le pitaine, vous appelez ça comme vous voulez. Le CT.
Le CT, c'est-à-dire
un chef de troupe.
Ah oui, absolument.
Et donc, l'adresse, c'est 65 270 Saint-Pé de Bigorre. Saint-Pé, c'est P-E
oui.
De Bigorre. Refuge Guillaumet. Tiens, je salue le capitaine Delas, signé un de ses anciens hommes.
Ah ben c'est sympa, et il a mis son nom.
Non, il a voulu être discret. Mais peut-être
dommage.
Qu'il peut vous rappeler, puisque vous allez passer dans notre...
Oui, s'il m'entend, j'aimerais bien savoir.
Voilà, s'il vous entend, je pense qu'il vous entend. Qu'il rappelle pour être en contact avec vous, puisque vous avez maintenant quitté le studio, repasser au bureau, et puis prendre votre train pour retourner dans votre dans vos belles Pyrénées.
Voilà, et bien merci de votre accueil.
Merci Gérard Delas, et puis
bon
courage,
combat.
Et puis à bientôt. Revenez nous voir pour nous parler de vos activités.
Au revoir.
Peut-être qu'on peut entendre Marc Dem maintenant, s'il a eu la patience.
Je suis là, je vous écoute.
Vous êtes formidable, Marc. Vous êtes
surveillé.
D'une fidélité extraordinaire. Donc, vous avez fait cette semaine la lettre confidentielle, Iotaonum ?
Si je l'ai faite, oui.
Non,
bien sûr.
Non, je vérifie avant, parce que... Je vais être sûr qu'on ne parle pas dans le vide.
Non,
vous pouvez l'envoyer aux gens qui écrivent, boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye.
Voilà.
CEDEX.
Et ils recevront trois numéros successifs.
Trois numéros successifs, en échange d'une simple carte de visite.
Voilà.
Est-ce que vous avez toujours des demandes ?
Ah oui, ça, c'est régulier. C'est régulier,
parce que
en grande partie par Radio Courtoisie.
C'est bien. Je m'en félicite parce que ça prouve qu'on a toujours de nouveaux auditeurs. Ou qu'on a des auditeurs qui réagissent peut-être à la 40e injonction.
C'est ça.
Donc je ne désespère pas quand je leur dis abonnez-vous au Libre Journal en envoyant 600 francs 139 boulevard de Magenta 75-010 Paris. Peut-être qu'ils finiront par à se décider, quoi, à s'abonner à mon journal.
Demain, c'est un excellent journal.
Merci Michel. C'est pour ça, j'ai fait venir Michel Blanza parce qu'il réagit très très bien sur la question de... Mais on l'entend mal, il faut parler... La seule chose qui est ennuyeuse avec lui, c'est qu'il n'a pas compris que la radio fonctionne avec un micro.
Ouais. Je me méfie des micros, avec tout ce que j'ai lu dans les journaux...
Oui, non, mais là, vous pouvez être sûr qu'on est écouté, il n'y a pas de doute. Ça ne mord pas, non, comme dit Patrick. Bien, Marc, trois informations, s'il vous plaît, pas trop dramatiques, pas trop destructrices.
Vous savez que ce n'est jamais dramatique. Jamais dramatique. Alors, il y a une grosse affaire dans le prochain numéro, c'est la fameuse Bible des communautés chrétiennes, dont certains ont dû entendre parler, qui est le suivant. Paraît une Bible des communautés chrétiennes, très bien imprimée, sur du très beau papier, 90 francs, la Bible s'est donnée. Elle se vend à 40 000 ou 50 000 exemplaires, depuis le milieu de 1994. Là-dessus, quelqu'un s'avise que cette Bible est antisémite. Elle est antisémite, c'est-à-dire que si vous prenez la Bible de Crampon, vous la trouverez également antisémite. Ça veut dire, dans le langage de ceux qui trouvent cela, que cette Bible transmet les rapports, parle des rapports entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, etc., comme on l'a toujours fait, mais comme on ne le fait plus depuis Vatican II. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un imprimatur qui a été donné par Monseigneur Thomas, évêque de Versailles. Alors Monseigneur Thomas, évêque de Versailles, pris dans une affaire de ce genre, c'est évidemment un cataclysme.
Oui, parce que c'est l'évêque des francs-maçons. Alors, l'évêque des francs-maçons qui a donné son avaloir à une Bible antisémite, on n'est pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge, et il a fait donc un long communiqué essayant d'expliquer qu'en fait, cette Bible, il ne l'avait pas lue. Et que
c'est pour ça qu'il avait donné son imprimatur.
Ses censeurs ne l'avaient pas lue, sans doute non plus. Mais alors, ça c'est une chose, mais il y a une deuxième chose qu'on ne dit pas, que je suis certainement le premier à dire, c'est la chose suivante. Je me suis tout à coup souvenu un souvenir m'est revenu. Un souvenir m'est revenu, j'avais déjà entendu parler de cette Bible, mais il y a très longtemps, et pas en français, en espagnol. Alors je suis allé revoir un de mes livres, qui est Dieu et successeur, paru il y a 13 ans, et j'ai retrouvé mention de cette Bible qui est la Bible de Fidel Castro.
Elle
est née de la façon suivante.
C'est le coup pour la fanfare.
Un prêtre, tout au moins, parce qu'ensuite ils ont été deux, mais un prêtre du diocèse de Versailles, se trouvant là-bas et faisant de l'action sociale et, j'espère, aussi évangélique,
t'as qu'à croire,
a eu l'idée de faire une Bible très populaire, bien expliqué. D'ailleurs, il y a énormément de notes et énormément d'introductions de tout genre. Il y en a beaucoup plus que de textes. Le texte lui-même, il l'a mis en langage parlé. Et les notes sont des notes révolutionnaires qui ont un peu été édulcorées pour la traduction en français. Mais dans la Bible espagnole, la Biblia Latinoamericana, elles y sont. Et cette Bible est à l'origine une Bible promotionnée par Fidel Castro.
Décidément, c'est amusant.
Le scandale éclate au moment où Fidel Castro est en France.
Oui.
Ça, c'est une coïncidence, bien sûr, mais assez surréaliste. Alors, cette Bible, pour en dire encore un mot, mais ça sera dans un numéro suivant, parce que je n'ai pas eu la place de tout dire, est une Bible affreusement moderniste, où l'on voit une partie de la Genèse, par exemple en italique, parce que ce n'est ni Moïse ni le Saint-Esprit qui sont derrière, ce sont les prêtres juifs du 5e siècle après la captivité de Babylone. Et ce qu'ils racontent, Dieu a créé le monde, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, etc. Ça, selon eux, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit, ce sont les légendes babyloniennes que les juifs avaient rapportées de là-bas. Et tout s'ensuit, Nouveau Testament comme Ancien Testament. Bon, donc là, il y a du travail sur la planche pour Iota Unum, comme bien vous pensez.
Ben c'est bien, continuez, travaillez bien. Vous nous donnez une autre information avant qu'on se sépare?
Oui, alors vous en voulez une catastrophique aussi? Non.
Non,
alors je vous donne quelque chose de très différent. Très différent. Vous savez qu'il y a à Civitavecchia, en Italie, tout près de Rome, il y a une vierge qui pleure. Qui pleure des larmes de sang.
Oui, de sang humain masculin, dit-on.
Oui. Mais il y a quelque chose de nouveau. Le 6 mars, une foule énorme stationnée à Salerne, et la police a été voir ce qui se passait parce que les voitures, elles, ne pouvaient plus passer. Et a trouvé que l'effigie du Padre Pio faisait la même chose. Donc, le Padre Pio ne verse pas des larmes de sang, mais du sang s'écoule, ou tout au moins ce qui ressemble à du sang, s'écoule de son côté et de ses mains.
Ah,
alors si vous me demandez ce que j'en pense, eh bien je n'en pense strictement rien.
Ben, je suis exactement d'accord avec vous. On va peut-être attendre que notre Sainte Mère l'Église se soit prononcée là-dessus. On va faire preuve, tiens, pour une fois, on va faire preuve de prudence et de circonspection. Merci mon cher Marc, à la semaine prochaine. Et je rappelle que les auditeurs qui veulent en savoir plus et combien plus peuvent écrire en boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX et ils recevront le numéro de Iota Unum avec toutes ces informations et bien d'autres pendant 3 semaines consécutives, et après ils n'auront plus qu'à s'abonner. À la semaine prochaine, Marc.
À la semaine prochaine.
Bye.
Alors ça, c'était pas de Spike Jones, ça, on l'a bien compris, c'était une musique tahitienne. Je croyais faire plaisir à Amandine Dore et Ter Stevens en lui faisant écouter ça. Alors c'est complètement raté parce qu'elle me dit c'est de la guimauve pour touristes, ça n'a rien à voir avec la musique traditionnelle tahitienne. Bonsoir Amandine.
Bonsoir.
Vous voyez, je vous appelle Amandine parce
que... Ah, mais non, c'est très gentil de dire, on m'appelle toujours Amandine.
J'ai tellement lu sur vous et de vous que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Alors, vous êtes la femme de Ter Stevens. Voilà. Et vous êtes là parce que j'avais envie de parler de lui, parce que c'est un magnifique écrivain.
Ah oui, ça me fait plaisir.
Et puis, j'ai envie que vous puissiez faire éditer rapidement votre livre à vous. Parce que c'est un très très beau livre qui raconte eh bien, vos aventures avec Ter Stevens, comment vous l'avez rencontré, comment vous avez partagé
sa vie. J'ai essayé de montrer le personnage qu'il était.
Et qui est le personnage ?
Un personnage vraiment très, très puissant, d'une personnalité tout à fait exceptionnelle, qui aimait beaucoup la civilisation française, qui commence à l'époque de Montaigne pour lui. Il se sentait un homme du XVIIe siècle.
Et... Alors, il faut d'abord dire que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour les auditeurs qui nous auraient rejoints depuis le début de l'émission, c'est un grand écrivain voyageur.
Ah oui, on remarque que c'est difficile de le situer, parce qu'il a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'essais et beaucoup de livres de voyage. Et ma foi, on retient actuellement surtout l'écrivain de livres de voyage, mais en fait, il a fait des romans, de nombreux romans, et des essais aussi.
Il avait notamment un roman qui s'appelle L'or du cristal.
Oui, qui marche très bien maintenant, on en est au 40e mille déjà. Et puis, enfin, il en a fait bien d'autres, évidemment. Moi, là, j'étais contente qu'on fasse une réimpression de ce livre en début septembre.
Alors,
qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Eh bien. Alors, on va d'abord parler de lui. Qui était Ter Stevens ? Parce que je l'ai dit au début de cette émission, il a été, dans les années 50 et 60, un écrivain extrêmement connu, extrêmement lu. Et puis, depuis une dizaine d'années...
C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il a disparu en 74. Alors, ça fait déjà 20 ans... Il y a des périodes d'oubli, puis maintenant j'ai l'impression qu'on va le redécouvrir, parce que à travers son œuvre, on pouvait voir une mentalité que peut-être on recherche maintenant. Il est né en 85 à Bruxelles, et il est venu à Paris en 1912, grâce à Palowski, qui lui a... Mon mari, à l'époque, avait publié les poèmes en prose. Dans son service de presse, il avait adressé un de ses exemplaires au directeur du journal Comédia, qui lui avait fait des plus grands compliments. Mon mari lui avait répondu, les compliments sont bien jolis, mais ça ne m'arrange pas. Moi, je m'ennuie à Bruxelles. Je voudrais essayer de venir à Paris faire ma carrière. Et là, je n'en ai pas les moyens. Et Palowski lui a répondu par télégramme, venez, vie assurée.
C'est une belle époque.
C'est beau, Michel. C'est beau ça. Et alors, il lui donnait la dernière page de son journal, écrivez ce que vous voulez. Wow. Ça aussi. Non, mais en donnant ces détails, tout de suite, je dépeins une atmosphère, une époque. Et grâce à mon mari, j'ai pu connaître cette époque que moi, je ne découvrais que lorsque j'ai vu mon mari, c'est-à-dire, je parle de 46, la première fois que j'ai rencontré mon mari, mais ensuite, nous avons été mariés à Tahiti. Et je l'ai suivi dans la dernière partie de sa vie, dans tous ses voyages que j'accomplissais avec lui. Moi, je faisais des croquis, je bavardais avec les uns les autres, je lui rapportais des informations, lui de son côté en avait, et il faisait des photos, moi j'étais concurrente, je faisais des dessins, et ma foi...
Oui, parce que, Amandine, il y a une chose, je vais le dire, je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise, mais je vais le dire quand même, parce que vous appelez Amandine Doré,
oui.
comme Gustave.
Oui.
Et comme Gustave, vous êtes peintre, graveur, dessinateur.
Ah oui.
Et c'est pas très étonnant, c'est par le sang que ça vient.
Non, parce que en réalité, je ne suis pas descendante directe de Gustave Doré. Oui, il n'avait pas d'enfant d'ailleurs.
Vous êtes ma grand-mère
était de sa famille. Et ma grand-mère s'appelait Amandine Doré. Et elle m'a donné son prénom d'Amandine. Et j'ai joint le nom de Doré en hommage pour elle-même aussi. Voilà. Parce que c'était une femme extraordinaire.
Alors, puisqu'on parle de nom, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est que cet invraisemblable nom.
Bon, ben, je vais vous l'expliquer.
Qui s'écrit,
c'est très simple.
Qui s'écrit T.
D'abord, le petit T, c'est une contraction d'une particule. Il y a 7 familles à Bruxelles qui portent ce petit T, qui ont le droit de porter ce petit T. Des vieilles familles de Bruxelles. Enfin, ce serait trop long à expliquer. Serre-Stévin se divise en deux parties. C'est-à-dire, Serre, ça veut dire le clan, et Stevens, ça signifie Étienne, le clan des Étienne. Alors maintenant, vous retiendrez les uns et les autres facilement ce nom.
C'est Max Stephen pour les Écossais, pratiquement.
Oui, quelque chose comme ça, le clan des Étienne, voilà. Alors maintenant, c'est très facile.
Donc, le T apostrophe, et ensuite,
le T apostrophe est à part. Voilà.
Voilà, bon, alors, et son prénom, c'était Albert.
Albert, oui, alors il n'aimait pas ce prénom. Je sais pas pourquoi, parce que moi je le trouve très joli, ça signifie arbre. Mais, et lui, il avait voulu se fabriquer un prénom, c'était de sœur. Il avait pris ces trois lettres-là.
C'était un peu un homme de clan, d'ailleurs, parce que vous avez vécu en permanence, lui a vécu en permanence au milieu de ses amis, alors là, il y a des aventures incroyables, d'une drôlerie irrésistible que vous racontez dans votre livre, qui n'est pas encore publié, mais j'espère que ça va pas tarder. Il y a des anecdotes qui mettent en scène des gens comme Blaise Sandra,
alors que je commence un petit peu par le début, c'est-à-dire que pourquoi est-il venu dans l'île Saint-Louis? Parce que cette île était une île qu'on connaissait, qu'on avait oublié à Paris. C'était la campagne.
Parce que quand il arrive en 1912, il vient habiter l'île Saint-Louis, simplement.
Le temps de s'installer, il s'installe dans son immeuble de l'île Saint-Louis en juillet 1913. Et Camille Claudel avait été éloignée de son atelier en janvier. Bon, alors on ne peut pas imaginer ce qu'était cet immeuble, comme bien d'autres dans l'île Saint-Louis, peut-être même dans Paris. C'est-à-dire que ça ressemblait plutôt à une ferme qu'à un immeuble. Par exemple, par une chose de hasard, je ne sais pas à quoi ça tenait, les voitures du bazar l'hôtel de ville étaient conduites par des chevaux à l'époque. Et les chevaux du bazar de l'hôtel de ville venaient dormir dans cet immeuble. C'était, il y a des sortes d'écuries.
Les remises, oui.
Les remises, écuries. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Imaginez cette cour où habitait Camille Claudel, probablement, dans ces sortes, elle avait des remises ateliers, et où elle avait toutes ses œuvres. Alors, vous imaginez cette cour avec, le soir, avec des chevaux, les palefreniers, les poules, quand il y a des chevaux, il y a du crottin, il y a donc des poules. Puis, il y avait Camille Claudel qui était là, avec des fleurs, des plantes. Probablement, ses statues à demi brisées pour certaines, puisqu'elle avait un besoin de détruire, enfin, d'être dans des moments de crise d'autodestruction, elle détruisait ses sculptures. Enfin, vous imaginez ce que c'était. Et ensuite de ça, bon, mon mari a habité là, puis ensuite en 13, mais il y a eu la guerre, ça c'est trop compliqué d'expliquer, parce qu'il y avait Sandra qui était mêlée à toutes ces histoires, Sandra, Abel Gance, ça faisait un trio d'amis extrêmement, extrêmement unis. Enfin, ils ont fait la guerre comme ils ont pu, les uns les autres. Enfin, ils l'ont subi, et se sont engagés tous les trois. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un grand sentiment de patriotisme. La France, c'était quelque chose. Je sais que quand mon mari prononçait ce mot-là, il avait toujours un peu de larmes dans les yeux. Enfin, surtout pendant l'occupation, où là, il s'est senti prisonnier et terrible. Il n'a pas voulu quitter Paris, d'ailleurs.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ce grand voyageur qui a passé sa vie à courir le monde n'a jamais quitté quand il était à Paris, l'appartement dans lequel il s'était installé
à son arrivée. Ça lui plaisait, d'abord parce qu'il a tout de même connu l'île Saint-Louis très longtemps, quelque chose d'absolument assez unique dans Paris. C'était isolé. Moi, j'avais notre concierge, elle n'avait pas été en ville depuis 3 ans.
C'était étonnant, oui. Alors, c'est un autre univers.
Mais ensuite de ça, oh, c'est un peu décousu tout ce que je raconte.
Alors, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire du chat.
Ah, le chat. Ah oui, donc dans cet immeuble, mon mari habitait au dernier étage. Et en face de lui, un corps de bâtiment se trouvait, dans un corps de bâtiment se trouvait un poète, Gerber, qui écrivait, qui avait du talent, mais il décrivait... Il dénonçait un petit peu les habitudes de ses contemporains, mais d'une façon tellement lamentable, tellement désabusée, tellement triste, que personne ne le lisait. C'était trop triste. Alors, mon mari avait donc un chat. Mon mari avait un chat, il était très ami avec ce Gerber, il s'appelait Gerber. Et le chat avait un collier, et à ce collier, mon mari accrochait un petit mot, et le chat allait rejoindre cet ami Gerber, et il faisait le facteur, somme toute. Évidemment, on devait l'attirer avec une friandise pour chat, quoi, n'est-ce pas? Et alors, mon mari, la même chose, rappelait le chat, lui présentant une friandise. Enfin, c'était ce genre de vie qu'il y avait. Oh, il y avait bien d'autres histoires encore. Qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, puis alors, dans l'île, bon, ben, toutes ces rues étaient occupées d'abord par les concierges qui s'installaient sur le port de la porte de leur immeuble. Il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Alors, il y avait toujours 2 ou 3 sièges occupés par les concierges. Ils jouaient aux dames, ils jouaient aux échecs quelquefois parce qu'il y avait des passants qui s'en mêlaient. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait le casseur d'œufs. Ça, je crois que je vous l'ai raconté.
C'est un très beau métier, ça. Racontez-nous ça.
Allez, je mets un petit peu d'eau.
Le casseur d'œufs.
Oui, il était au rez-de-chaussée, dans la cour d'un immeuble, et il cassait les œufs, séparait les blancs des jaunes.
Toute la journée.
Bon, et toute la journée, il faisait ça, parce qu'il gagnait sa vie en envoyant le résultat de ses efforts, si on peut dire, au pâtissier de la ville. Ben, c'est un métier qui existait. Ensuite, vous avez un maraîcher qui arrivait avec une brouette remplie de fruits, de légumes, et ma foi, il devait venir de ces terres, peut-être, qu'est-ce que ça pouvait... Oh, ça devait être au-delà de la porte d'Italie, enfin, dans ces coins-là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, il y avait un homme qui se promenait avec une hotte dans son dos, et on lui donnait une petite pièce de monnaie, il vous confiait une longue fourchette, et avec cette fourchette, vous allez chercher dans cette hotte qu'il portait sur son dos, ce qui pouvait tirer.
Il avait droit,
qu'un seul coup. Alors, il tirait soit une cuisse de poulet, soit un légume, soit un fruit. Question de chance. Et puis, il y avait les chevaux qui venaient boire à l'abreuvoir aussi, là. Vous savez, il y a une pente, là.
Oui. Buvaient dans la Seine
on la voit, d'ailleurs, elle existe toujours, qui est près du pont qu'on appelle la passerelle, je sais pas pourquoi, les voitures n'y vont pas, enfin, il y a un pont, c'est décoratif, quoi, actuellement. Puis, ça s'amuse, les enfants peuvent jouer au patin roulette dessus, enfin, c'est très bien comme ça. Puis, alors, il y a encore des canards, j'en ai dénombré encore 50, moi, l'année dernière. Ils sont les seuls qui soient restés.
C'est-à-dire que cet endroit, qui aujourd'hui est un des endroits les plus prisés, un des endroits les plus prisés au monde pour habiter, quand on habite, on dit aux étrangers.
Ben oui, bien sûr, mais...
C'était à l'époque une espèce de petite campagne parisienne.
À l'époque, mon mari avait beaucoup d'amis, des jeunes écrivains comme lui, ou peintres, ou artistes, qui étaient peu argentés. Parce qu'il faut bien dire que mon mari, on lui avait assuré de quoi vivre, mais en fait, c'était... un repas par jour, qu'on lui avait assuré. Alors évidemment, les autres n'étaient pas mieux logés que lui. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Modigliani. Alors avec Modigliani, c'était des farces à n'en plus finir. Par exemple, il y avait aussi le bateau Lavoir, qui se trouvait juste en face de son immeuble. Et pour aller à ce bateau Lavoir, il fallait passer sur une passerelle. Mais eux, Modigliani et puis mon mari, avaient trouvé ça beaucoup plus drôle d'essayer de passer comme Jésus-Christ, c'est-à-dire marcher sur la mousse. Alors évidemment, le résultat, c'était pas Jésus-Christ.
Peut-être pas au petit matin, c'était ou alors au tout petit matin.
Non, c'était le soir.
Mais c'était le soir.
Ou
au petit matin.
Ou au petit matin. Mais enfin, en tout cas, devinez pourquoi.
Ouais, c'est la première fois de la journée où ils ont bu de l'eau à ce moment-là.
Ils buvaient la tasse, oui. Hey. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter en
fait? Ah bah alors, parmi ses amis, vous disiez Modigliani, mais il y avait Blaise Sandra, il y avait, cet écrivain
alors, donc,
extraordinaire.
Bon, il y a la guerre, n'est-ce pas? Oh, si, encore, il faut que je vous raconte quelque chose. Donc, il s'engage à Belgance, Sandra et mon mari formaient un trio d'amis très unis. Et à la déclaration de la guerre, tous les trois veulent s'engager dans la Légion étrangère. Alors, on prend Sandra parce qu'il était costaud. Vous savez ce qui lui est arrivé, qu'il a perdu un bras, etc. Bon. Et mon mari et Abel Gans, on les renvoie parce qu'ils étaient trop maigres et trop affaiblis. Et inutiles comme soldats, ils n'étaient pas capables de porter la moindre arme. Ils n'étaient pas assez costauds. Avec ce régime alimentaire, ils devaient ressembler à des petites carcasses de poulet plutôt qu'à des soldats. Hein. Bon. Alors donc, qu'est-ce que je
dois... Il faut dire quand même pour l'anecdote que 60 ans plus tard, ans plus tard, votre mari... va faire une démonstration dans les montagnes tahitiennes où il part en excursion avec des gens qui lui disent « Oh là là, vous
mais
pourrez
non,
pas nous suivre, mon pauvre monsieur. » Ah oui, c'est en Italie.
Oui.
C'est en Italie.
Non, mais, et puis à Belgance aussi, ils ont vécu très longtemps. Seulement, pour résister au régime qu'ils s'imposaient, enfin, que la vie leur imposait, il fallait être solide. Parce qu'ils mangeaient pas leur faim, quoi, faut bien dire, tout ce temps qu'ils étaient. Ça durait tout de même un certain temps. Alors, je me suis perdu.
Alors, en tout cas, je voulais raconter cette histoire quand même, cette carcasse de poulet, comme vous disiez, à près de 80 ans, il va partir dans la montagne, faire une excursion. Tout le monde dit, il va pas tenir le coup, il va s'effondrer.
C'était pour aller en haut du Vulcano.
Voilà. Il sème tout le monde, il arrive, tout le monde est effondré, les gens arrivent une demi-heure après lui, dans un état proche de l'agonie. Lui est debout, les attend, et puis, il dit, qu'est-ce que vous attendez là? Bon, ben, moi, je redescends. Il redescend en sautant comme un cabri. Dans la cendre.
Oui,
et arrivé en bas, il se déshabille et il plonge pour prendre un bain, histoire quand même de se remettre de ses émotions.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ça m'a beaucoup frappé, cette anecdote que vous racontez, parce que on voit la puissance extraordinaire du personnage, qui était quand même extraordinairement physique.
Ah oui. Mais même intellectuellement, quand il commençait à écrire un livre, il était en bon état, normal. Et quand il avait fini d'écrire son livre, c'est-à-dire un an de travail, sans arrêt, sans un dimanche, enfin, ou un jour de fête, sans arrêt, il avait rajeuni. Ah non, mais c'était prodigieux. Et alors, quelquefois, il cherchait un mot, il ne faisait jamais de rature dans ses livres. Il faisait les ratures dans son cerveau. Il cherchait un mot le soir, et le lendemain matin, son cerveau a travaillé, il le trouvait, ce mot. Donc, le cerveau, c'est une sorte d'instrument qu'on déclenche et qui se met à travailler comme une machine. Et en même temps, entraîne les autres organes, probablement, en bonne santé. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter encore?
Je voudrais que vous nous racontiez, c'était André Suarez qui venait travailler chez vous, non?
Oh non, mais il y en avait bien d'autres. Il y avait donc la guerre se passe, et, ah oui, il faut que je vous raconte ça. Mon mari, en 1918, un petit peu avant la fin de la guerre, enfin, se trouvait à l'hôpital à Nice, et était convalescent, et là, il y avait Abel Gance qui commence un film, qui s'appelait Ex-Homo.
Ex-Homo, oui.
Oui. Et ce film n'a jamais été terminé, d'ailleurs. Et mon mari avait tout un... physique de l'emploi, c'est-à-dire c'était Jésus-Christ qui revenait sur terre à notre époque. Alors mon mari avait été assez maigre à cette époque-là, évidemment, il n'a jamais été grand d'ailleurs. Il avait un collier de barbe, un visage très 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 régulier, très classique, et donc il fait ses essais, puis c'est tout. C'était au bout de quelques semaines, c'était terminé. Il s'attendait, il était rappelé au front. Il était à Dixmude, Neufchâtel. Enfin, à l'époque, il était encore belge. Mais il s'est fait naturaliser très peu de temps après, quoi. Et il rencontre Modigliani, qui lui dit, écoute, mon vieux, sur la promenade des Anglais à Nice, j'ai pas le sou. Toi, tu viens de travailler avec Abel. Tu as gagné un petit peu d'argent. Achète-moi 3 tableaux. Ça m'arrangerait énormément. Alors, mon mari lui dit, écoute, je pars demain regagner mon régiment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes tableaux? Ensuite, j'ai un peu d'argent, ben, ça servira aux copains pour la cantine, pour s'offrir un peu de friandises. Mais attends, il y a Germaine Meyer, la pianiste, qui est là, qui est plus argentée que nous toutes, que nous tous. Je vais la contacter. Viens donc me rejoindre sur le quai à l'heure du départ, de mon départ. Alors, à ce moment-là, Germaine Meyer, non, c'est Germaine Meyer ou Marcel Meyer, je me souviens plus. Enfin, qu'importe. Enfin, si, ce sera important pour elle. Donc, il arrive, Modigliani arrive, fait en effet cette affaire avec, avec cette femme, cette charmante pianiste, qui lui a acheté des tableaux, et dont il a fait un portrait d'ailleurs. Qu'est devenu ce portrait, je n'en sais rien. La guerre se termine, mon mari rentre, très épuisé, et là, le médecin lui dit, il n'y a qu'une chose à faire, partez en Italie, mais j'ai pas d'argent, va tant pis, sac sur le dos, mais il faut absolument que vous changiez d'air. Alors c'est ce qu'il fait, il part en Italie, et là il rencontre Benedictus de Spinoza, qui était le descendant de Spinoza, qui était un de ses grands amis, parce que ses amitiés masculines, c'était quelque chose de magnifique. Moi j'ai la plus grande admiration, le plus grand respect, parce que c'est quelque chose de puissant, de beau. Tous ces hommes étaient de grands talents, mais il y avait une amitié. Oh, mais sans tes frères, enfin, c'était très beau, à tel point que donc mon mari, très affaibli, pouvait à peine marcher, et Benedictus lui dit, ben mon vieux, viens habiter avec moi, on va se débrouiller, t'as pas beaucoup d'argent, pour l'instant tu peux pas travailler, on va se débrouiller. Et en effet, il sortait avec lui toutes les après-midi et il l'emmenait marcher de plus en plus loin dans des fermes qu'il rencontrait. Et là, il tâchait d'avoir un œuf. Et alors Benedictus, cette chose adorable, avait un citron dans sa poche. Et à chaque fois qu'il allait dans une ferme, il demandait un œuf et il l'ouvrait, il mettait quelques gouttes de citron et il faisait gober à mon mari. Et puis au bout d'un certain temps, mon mari, il lui dit, écoute, il dit à mon mari ne le voit plus l'après-midi. Il lui dit, écoute, maintenant tu es un petit peu plus fort, l'après-midi je vais prendre ma liberté. Oh, mais oui, bien sûr. Et par hasard, mon mari a su, l'a vu sortir d'une banque. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Elle lui dit, oh ben rien, je travaillais un peu. Et tout simplement, il s'était mis à travailler pour pouvoir continuer à nourrir son ami. Ah, vous voyez ces amitiés, mais il y a eu bien d'autres choses avec entre Abel Gance, Sandrard, mon mari, mais ce genre de choses qui sont très belles.
Et en même temps, il y avait un sens de la farce.
Ah oui, il était plein d'humour.
Alors, je voudrais que vous nous racontiez l'affaire de la mouche.
De la?
De la mouche.
Oh,
ah, c'est une idée.
Ah, ça, c'est bien filmé. C'est au bout. Au bout, il y avait un de leurs amis, l'imprimeur Joux, qui fait très belles choses d'ailleurs, sa maison, son hôtel qu'il a restauré avec un goût parfait, existe encore au beau. Et grâce à un ami, que je dois donner son nom parce qu'il s'est dévoué, un ami Mathias, qui a fait une chose magnifique, c'est-à-dire il a pu conserver cet hôtel en faisant un musée, le musée du livre. Et là, il y a de très belles choses que le Joux a imprimées. Enfin, bon, qu'importe, ça, c'est le présent. Mais le passé, c'était dans les années 20 et quelques. Il y avait donc les trois larrons qui étaient là, Suarez, Joux et mon mari. Et Suarez était un homme qui vivait, mais alors vraiment tout à fait en dehors de son époque. Il avait, si vous voyez un peu le portrait, un personnage blafard, petit, maigre, avec des longs cheveux noirs, l'arrêt au milieu de la tête, les longs cheveux noirs qui tombaient de chaque côté de son visage, et pour avoir, avec des grands yeux noirs immenses, et pour avoir l'air plus gothique, parce qu'il était tout à fait emballé par le gothisme, oh, c'est de même, ça allait plus que loin, parce que pour se faire un front de style gothique, il se rasait le haut du front. Enfin, vous voyez, le genre d'individu. Mais tous étaient plus ou moins fantaisistes de cet esprit-là. Et alors, il avait la phobie des mouches, ce pauvre Suarez. À table, par exemple, c'était lui qui distribuait le pain, parce qu'il mettait le pain sous une serviette. Il en sortait un morceau quand on le demandait. Immédiatement, il remettait la serviette. Et il allait il quittait ses amis après déjeuner. Il allait s'enfermer dans une pièce. Il fermait, même en grande chaleur, il fermait les portes, les fenêtres, pour ne pas avoir les mouches qui viennent le déranger. Et alors, évidemment, qu'est-ce que vous voulez, les deux farceurs, Joux et Pitzer, ils ont trouvé quelque chose. Ils attrapaient des mouches, ils les mettaient dans un cornet, et avec un système de soufflage, ils soufflaient dans le trou de la serrure. Et les mouches pénétraient dans la pièce. Et Suarez se demandait toujours, mais comment se fait-il qu'il y a des mouches comme ça autour? Enfin, c'était le genre de blague.
C'est extraordinaire, je trouve. C'est une très très jolie anecdote, parce que c'était pas un bébé quand il faisait ça, quand même. Quel âge avait-il?
C'était dans les années... Oh, mais ils ont gardé une âme d'enfant. Longtemps, c'était dans les années 25, Simon Maviri avait écrit Ceux de Provence. Oh, ça, c'est un livre magnifique, parce que en 25, les Beaux n'étaient pas connus du tout. C'était habité par 56 habitants des Provençaux, des ouvriers qui travaillent dans les carrières, tous un peu cinglés d'ailleurs. Enfin, c'était le midi, le soleil qui devait leur procurer cette fantaisie. Il y en avait un qui vivait avec des araignées qui l'apprivoisaient. Dans une de ces maisons-là, enfin. Et puis, donc, au beau, ne pensait que des gens, des artistes, plus ou moins célèbres, enfin, là, le trio. D'ailleurs, Suarez est enterré dans le cimetière des Beaux. Mon mari avait écrit un joli poème sur la tombe de Suarez, qu'on avait mis sur la tombe de Suarez, et c'était Joux qui l'avait imprimé. On avait fait un très beau sous-vert, on m'a mis ça sur sa tombe. C'est pas resté, évidemment. Oui, c'est dommage, probable. Le poème était très joli. Bon, alors on en revient dans les années 20, dans les années, oui, quand il revient, vers 24, 25, 26. Alors chez lui, il recevait ses amis, des jeunes inconnus. Qu'est-ce qu'il y avait comme ami? Voyons, il y avait Modigliani, bien entendu. Il faut que je vous raconte ça. Il y avait donc Honegger, il y avait Eric Satie. Eric Satie, il y avait Sandrard, il y avait Macorlan, Dufy, Léger, enfin, tous ces jeunes inconnus qui devenaient célèbres et qui étaient tous aussi désargentés les uns que les autres. Alors, évidemment, à l'époque, mon mari ne pouvait leur offrir qu'une tasse de thé, des petits gâteaux secs. Ils venaient tous les vendredis. Mais ça n'avait pas d'importance, parce qu'ils étaient ivres d'idéalisme, de poésie dans le cœur. Et puis ensuite, tous ces gens-là, surtout, enfin, j'en ai connu encore quelques-uns, ils transformaient la réalité. Ils vous entraînaient dans un univers. En partant d'une chose très simple, eh bien, vous perdiez pied. Et puis ensuite, d'une chose, d'un événement très très simple, ils vous entraînaient dans des univers extraordinaires. Et à chaque fois, même avec le même sujet, il crée autre chose. Alors évidemment, Honegger avait heureusement, pour eux tous, une bonne amie. Enfin, je ne sais pas si c'était une bonne amie, enfin, en tout bien tout honneur, je vais pas faire d'histoire, qui habitait la Lorraine et qui lui envoyait du champagne. Alors, à ce moment-là, ils avaient droit au champagne, c'était une aubaine, n'est-ce pas, au lieu de thé. Mais enfin, ça n'avait pas d'importance. Ils étaient ivres de poésie. Vous imaginez l'été, ce que ça pouvait donner. Sandra qui se levait et qui se mettait à réciter des vers tout debout dans le chaînon. Lui qui n'avait qu'un bras, mon mari qui tremblait. Puis les autres qui... Enfin, c'était la vie... C'était pas de la vie, cet étage-là, cet appartement. D'ailleurs, c'est imprégné encore, les murs sont imprégnés encore de ce passage trop chargé de poésie, de création, de fantaisie et puis surtout d'amitié.
Et comment expliquez-vous cette étrange passion pour le voyage? Parce que cette vie devait être tellement remplie.
Comment pouvait-il y échapper? Il a eu une vie je crois qu'il faudrait... Il a eu trois vies. En un personnage, il a eu trois vies. Alors, évidemment, il était trop, c'était trop riche, vous comprenez. Il lisait, par exemple, il a écrit un très beau roman, L'amour autour de la maison. Tout simplement, il s'est mis à écrire ce roman parce que, par hasard, dans un journal, il a découvert un fait divers qui racontait qu'on avait trouvé deux sœurs qui étaient mortes et qui étaient toutes les deux couchées sur un lit avec des fleurs sur elles. Et alors, mon mari, ça lui a donné l'idée de créer un roman, c'est-à-dire, il a imaginé ce qui a amené ces deux femmes là où elles étaient. Et ça fait l'amour autour de la maison, ça se passe dans les dunes, il y a une atmosphère, en France, bien sûr, dans les dunes, il y a une atmosphère extraordinaire, et ça paraît tout à fait normal, et on a l'impression que c'est la vérité. Remarquez, il aurait très bien pu écrire un autre roman encore, un autre thème, un autre, enfin, le même départ de thème, mais le traiter autrement.
Oui, mais alors, je reviens à ma question. D'un seul coup, il est dans cette ambiance, avec ses amis, avec cette bande, avec cette passion pour l'écriture, et puis il décide de partir.
Oui, alors, bon, parce que tout d'un coup, il a eu envie de changer. Il a écrit des essais aussi, beaucoup. Et, il est multiple, il y a trois personnages en lui, ou même plus que ça. Il est parti déjà, le premier voyage, bon, c'était en Italie, puisqu'il a passé presque trois années à marcher sac sur le dos, parce que tout de même, avec Bénédictus, ça a peut-être duré deux, trois mois. Puis comme il se sentait plus fort, il s'est mis à écrire des articles, il l'envoyait au journal, il aurait gagné un peu d'argent comme ça. Et il est parti faire l'Italie, mais sans être riche. Alors, il faisait 30 kilomètres à pied, tous les jours. Et ma foi, le soir, il dormait soit dans des fermes, soit dans des châteaux, au hasard des rencontres. Et donc, il revient à Paris, il y a donc un temps où, que je viens de décrire un petit peu, et puis je crois en 26, il repart. Je ne suis pas très au courant de ce qui s'est passé, mais je sais qu'on le retrouve en Amérique du Sud, un peu aux Marquises, pas très longtemps. Et puis il revient, et ma foi, il part... en Espagne. Alors, il commence toute sa série de voyages, Espagne, Portugal, Yougoslavie.
Alors, au Portugal, justement, un auditeur nous dit, je me souviens de M. de Sir Stevens, en juin 40, il était au Portugal, dans le sud, et il a fait, à partir de ce voyage, un livre, effectivement, qui s'appelle, je l'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle L'itinéraire portugais.
Moi, je ne peux pas vous en parler parce que j'étais pas de ce temps-là, moi. Mais moi, je suis arrivée plus tard dans sa vie.
Alors, le temps où vous y étiez, on va lire votre livre, là.
Tahiti.
Il faudra lire votre livre. Et puis, il faut lire un livre de Sir Stevens qui s'appelle Tahiti et sa couronne.
Oui, c'est ça.
Dans lequel vous êtes présente tout le temps, parce qu'il parle de vous tout le temps.
Bah oui, parce que, évidemment,
avec des anecdotes très drôles aussi.
On a été se marier là-bas, ce qui n'a pas arrangé les choses pour l'avenir, parce que il y avait un notaire qui nous a mariés, et puis ce notaire était complètement chelasse le jour du mariage, d'ailleurs, et puis les autres jours aussi. Et alors, la famille a décidé... Ça fait un scandale. La famille a décidé de l'envoyer à Vichy pour faire une cure. Et le malheureux, il en est mort au bout d'un mois.
Ça, je comprends.
Et puis, pendant 10 ou 12 ans, il n'y a pas eu de notaire. On a eu besoin de certains papiers, enfin, d'extraits de choses de mariage, je ne sais pas, moi. Il n'y en avait pas, quoi. Alors, on s'en est passé. Et qu'est-ce que vous voulez...
Alors ça, vous avez fait, donc, il vous a littéralement enlevé, il vous a emmené à Tahiti pour un voyage de noces qui a duré combien, 3 ans?
Oui, presque trois ans à Tahiti. Oui, alors là, on était dans les atolls, on était aux Marquises d'abord, puis dans les atolls, puis un peu partout. Alors il faut penser que à Tahiti, à cette époque-là, déjà on est parti de Marseille, et on est à 1056 jours pour arriver à Tahiti. Et puis là, on a circulé dans aux Marquises, dans les atolls, au Wainé, etc. Et on voyageait sur des goélettes qui ramassaient le copra. C'est-à-dire, quand on était dans une île, on était obligé d'y rester 3 mois, parce que la goélette ne repassait que 3 mois après. Alors, on vivait chez le chef, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il revient de tout, le chef nous recevait, parce qu'on avait fait amitié avec le directeur des travaux publics. Et alors, ce directeur des travaux publics, Alfonsi, nous a beaucoup aidé, parce que il était là depuis très longtemps, il avait, ma foi, essaimé des gosses un peu partout. Alors donc, il avait ce qu'on appelait des fétis, c'est-à-dire des alliés. Et comme on allait de sa part, il nous envoyait, autrement on n'aurait pas pu séjourner dans ces îles, il n'y avait pas d'hôtel, personne pour nous recevoir. Mais grâce à Alfonsi, on était reçus chez le chef. Et puis là, bon, chez des enfants à lui ou des anciennes connaissances, ce que je sais. Enfin, et puis aux Marquises, on était reçus chez le gendarme, avec lequel mon mari a eu une correspondance. Est-ce qu'il l'avait connu en 26? Non, c'est pas possible. Je sais pas. Enfin, bon. En tout cas, on est resté donc. Bon, on était souvent seul blanc. Et alors, aux Marquises, on était à Ivaoa, et là où habitait Gauguin. Et puis, on a encore connu deux maîtresses de Gauguin. Il y en a une qui avait, elles avaient leur nom, qui était tatoué, qui partait du poignet jusqu'à l'épaule. En lettres, ça faisait des lettres bleues, un petit peu.
Vous savez qu'il y a des moments magiques dans l'existence, parce que Marie-Josée de Bravoura, qui est ici, ce soir va nous parler de Gauguin.
Ah oui. Ah ben alors, je peux vous dire ce que j'ai, le peu qu'on ait connu, parce que j'ai pu apprendre, je veux dire retenu, parce que donc ces deux femmes avaient connu Gauguin, c'est-à-dire, bon, comme bien d'autres, hein. Et...
Vous avez alors, des silences très éloquents.
Oui. Alors, il y en a une qui m'a adoptée et qui a adopté aussi mon mari parce qu'elle vivait dans une case et il pleuvait chez elle parce que c'était recouvert de niaou, les toits étaient en niaou et ma foi, il était trop vieux. Alors, mon mari, en échange de rhum, il avait apporté un pot de rhum qu'on donnait pas facilement. Parce que quand ils ont vu les Tahitiens, enfin les Maoris, ils se battent entre eux. Alors il faut limiter les générosités de ce genre. Mais enfin, ça en valait la peine pour cette brave femme. D'argent, ils n'en voulaient pas, ils ne savaient pas quoi en faire, ils n'avaient rien acheté. Alors donc, ils ont fait le toit de
Vous avez un problème avec le micro.
Oui, hein. Mais oui.
Non, c'est pas grave.
Bon, c'est pas grave. Et donc, on a refait le toit de cette femme, et en échange, elle m'a adoptée. Moi, je m'appelle Titiata. Ah, ça veut dire très... ornement de nuage.
Oh, que c'est joli.
Là, si c'est joli.
Ça vous va très bien, en plus.
Oh, ben maintenant. À l'époque, peut-être. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire au sujet de... Alors, Monsieur Conquet. On n'appelait pas Monsieur Gauguin avec la belle voix de contralto. Comment elle s'appelait? Enfin, on l'appelait Maman Victoire. Parce que quand elles deviennent âgées, abandonnées, elles vont voir l'évêque qui les baptise. Demande pas mieux, ça leur est bien égal. On ne peut pas leur faire de mal de toute façon. Et donc, cette Maman Victoire, moi, je l'avais prise en affection parce que ces Tahitiennes, quand elles deviennent âgées, sont adorables. Autant quand elles sont jeunes, elles sont capricieuses, enfants gâtés. Bon, enfin, ça les regarde. Mais quand elles deviennent âgées, elles sont charmantes, indulgentes, compréhensives. Elles sont très, vraiment... J'ai laissé un peu de mon cœur là-bas. Alors, avec Maman Victoire, je lui donnais un petit peu de friandises et elle me racontait, elle me disait, oh ben oui, avec Monsieur Coquet, était un très bel homme. Pour elle, bel homme, ça voulait dire solide, grand, costaud. Et Monsieur Coquet, avec une belle voix de contralto, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Alors, elle évoquait ça, le souvenir, le soir, on était chez Triff et il y avait une sorte... Il y a toujours une sorte de véranda, de terrasse, là. Et il jouait du banjo, de la guitare. Et en même temps, il chantait. Et on dansait. Ben, moi, j'ai dansé avec elle. Et évidemment, l'évêque était pas content, probablement. Surtout qu'il y avait une danse qui s'appelait la danse des cochons. Et moi, je la dansais avec les femmes. Enfin, c'était pas très... Le nom de la danse, c'était effroyable. Mais en fait, c'était pas bien méchant, quoi.
Ça ne l'était pas.
Non.
Merci, Amandine. Alors, deux choses. Il faut lire Tsar-Seven, parce que d'abord, c'est une langue magnifique. Je vais vous donner un tout petit extrait.
Oui.
Vous allez voir comment il écrit.
C'est une
des choses les plus difficiles. Il décrit un chant, c'est pratiquement impossible, comme une couleur. Hein? D'écrire une musique, c'est aussi difficile que d'écrire une couleur. Vous allez voir ce que c'est. Et alors, son livre... Tahiti et sa couronne, j'espère qu'il est encore disponible chez Albin Michel.
Non.
Il ne l'est plus.
On le trouve
plus. Alors trouvez-le par n'importe quel moyen, volez-le.
Vous pouvez le trouver à la bibliothèque de l'Arsenal, parce que moi, voilà. Je leur ai donné alors, tout ce que je pouvais
aller
avoir.
À la bibliothèque de l'Arsenal, empruntez-le, parce que c'est une pure merveille. C'est un travail d'ethnologue, c'est un travail d'amoureux, c'est un travail de voyageur, de... Il y a tout, puis en plus, dans une
langue superbe. On s'en réfère toujours à ce livre quand on veut parler voilà. des Tahitiens.
Mmh. Voilà, enfin, c'est définitif sur Tahiti, c'est vrai. Et bon, il faut relire certains éléments. On va obliger les éditeurs à le rééditer, et puis on va obliger les éditeurs à éditer le livre de souvenirs merveilleux qu'a fait Amandine. Moi, je me suis régalé. C'est un livre curieux parce qu'il y a deux parties. Et il y a un travail. Alors, on sent que vous êtes habité par Tser parce que vous avez fait la même chose que lui, mais vous avez fait sur une région de France.
Ah oui, les Cévennes.
Les Cévennes.
Ah, ça, c'était
vous racontez les Cévennes comme il raconte Tahiti. Et c'est superbe. Alors j'attends avec impatience que le livre sorte, et puis là vous reviendrez nous voir, on parlera des Cévennes.
Oui.
Alors, voilà ce qu'écrit Tser Stevens à propos de la musique tahitienne, du chant tahitien. Il dit « Le thème en est donné par une voix de femme, aigre, métallique, à la dernière limite de l'aigu. Les autres ne suivent pas d'un seul coup, mais entrent peu à peu dans le cœur, jusqu'à ce qu'il ait pris tout son volume. Les voix féminines de la même force nasillarde, les hommes formant des groupes d'accompagnement, ténors, barytons, basses, certains avec des voix presque mugissantes, la plupart soutenant la phrase musicale par une sorte de grondement sourd et répété à lèvres closes ou les mains en conque devant la bouche. Ils ne chantent pas à l'unisson mais à 4, 5 et 6 voix avec un accord saisissant dont ils semblent se jouer, tant est sûr leur instinct de l'harmonie. » Toutes ces voix sont belles à leur manière, c'est-à-dire extrêmement élevées et tendues chez les femmes, pleines et sonores chez les hommes, mais sans aucune nuance, aucun modelé, ni sforzando, ni diminuendo. Le chant tout entier de la même tonalité criarde. Le rythme est rapide, continu, soutenu par des notes si longues que les chanteuses les reprennent à tour de rôle, exactement comme il en est dans un air de cornemuse, avec lequel le tarava a beaucoup de rapport, tant par sa construction musicale, que par sa finale qui garde longuement la note dominante. Par instant, une voix très élevée, garçonnée ou ténor, lance à travers la masse chorale une sorte de broderie harmonique sans parole sur le son E, le plus souvent quelquefois sur le son A. Quand le chanteur s'enivre de ses propres modulations, elle retombe toujours sur quatre notes descendantes, une noire et trois croches, E, hé, 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 sol, mi, ré, do, que le chanteur répète plusieurs fois. Mais quel que soit le dessin de cette fantaisie musicale, il est parfois très compliqué, elle ne cesse de s'accorder avec perfection à l'ensemble, sans une dissonance, sans un contretemps. Celui qui la développe, on l'appelle Maruteitei, est soigneusement entraîné et considéré par tous les autres comme la vedette du cœur. Voilà comment on arrive à décrire un chant tahitien. Et vraiment, peu qu'on connaisse un peu la musique tahitienne, on a l'impression d'entendre le morceau. Là.
Et c'est alors les hommes sont presque accroupis. Ils sont assis et ils sont courbés pour mieux chanter. Je ne sais pas, parce que les poumons sont contractés, mais malgré tout, ça donne. Ils le font, ils savent pourquoi ils le font. Ça doit moduler une voix un peu différente. Ils ne découvrent pas leurs poumons et ils chantent.
Ils chantent pas à plein poumon.
C'est sourd, c'est très beau.
Merci Amandine. À bientôt, vous reviendrez nous voir dès que votre livre sera publié. J'attends ça avec impatience. On va titiller les éditeurs. Vous allez nous parler, Marie-Josée, de Monsieur Coquet.
Oui, absolument. Je suis ravi de ce concours de circonstances de ce soir. Et surtout encore plus ravi du fait que je voulais en dire pour une fois que du bien.
Ah bah, heureusement, vous vous rendez compte.
Ce qui est quand même quelque chose, on a frôlé la catastrophe, mais là pas du tout. Oui, parce que Gauguin, si j'ai voulu parler ce soir de Gauguin, encore une fois, je suis vraiment très heureuse que vous ayez parlé avant. Parce que Gauguin, moi qui toujours dit qu'il faut regarder les œuvres des artistes et non pas leur vie, parce qu'on a un petit peu perdu à notre époque le sens de l'œuvre pour simplement s'intéresser à la broderie qui est autour. Gauguin, à mon avis, fait échec à ce conseil que je donne normalement. Pourquoi ? Parce que je trouve que lorsque l'on connaît la vie de Gauguin, il est absolument un modèle de ce que devraient être les artistes d'une manière générale. Il l'a prouvé dans sa vie. Ça veut dire d'abord il a appris, puisqu'il a été un merveilleux impressionniste au départ. Il n'a pas eu peur de chercher des maîtres et de s'en inspirer. Puis, lorsqu'il a compris qu'il devait aller plus loin, Il l'a payé très cher, puisqu'il a perdu toute sa famille, du moins en tout cas il a été séparé de sa famille à cause de son art, et il a eu le choix cornélien. Moi j'avoue que ça me fait grand plaisir, parce que n'ayant pas effectivement de vraie famille et d'enfants, j'ai toujours dit que c'était l'un ou l'autre, mais que n'ayant pas eu d'enfants, je ne me sens pas frustré, je crée et ça me convient. Et il a donc payé très très cher le fait de vouloir suivre son chemin. Lorsqu'il a eu intégré toutes les informations de son époque, qui était une époque très figurative, il a décidé de partir. Il a trouvé effectivement dans les pays exotiques quelque chose qui l'a impressionné, il s'est laissé impressionner, mais au lieu de faire simplement un compte-rendu des pays où il était, il a établi toute une correspondance avec un tas d'artistes de son époque. Vous imaginez ce qu'auraient à dire nos artistes contemporains s'ils s'écrivaient les uns aux autres?
Ça serait atroce. Qu'ils chuchent écrire.
Non, c'est vrai qu'ils ne doivent pas savoir. Et quand on reprend tous les écrits de Gauguin dans ses conseils à ses amis, ce qui est fabuleux, c'est que c'était un homme complet. Ça veut dire qu'il était en même temps intellectuel. Lorsqu'il a eu peur de l'intellectualisme, il est revenu au sentiment. Lorsqu'il a eu fini avec le sentiment, il l'a mélangé avec son intellectualisme, et au départ, il savait observer et reproduire. Donc c'était à son époque ce que moi je prône à longueur d'année pour les artistes contemporains, ça veut dire la réhabilitation de l'homme entier, tête, cœur, main. Et Gauguin a été une réhabilitation. Et quand on prend ces peintures que l'on peut, pour certaines effectivement, qu'on peut rapprocher de l'art naïf, lui n'était pas naïf pour faire de l'art naïf, ça veut dire que nos artistes à l'heure actuelle cherchent une technique, cherchent un truc. Et lui, lorsqu'on lit sa justification de sa technique ou de ses techniques, il était d'une sensibilité, d'une humilité totale, ça veut dire que par certains moments, il ne travaillait plus, il s'imbibait du monde qui l'entourait, et une fois qu'il avait été bien imbibé du monde qui l'entourait, qu'il avait bien compris, qu'il avait bien réagi, qu'il était parmi eux et comme eux, à ce moment-là, il trouvait une technique différente et il l'adaptait à son milieu environnant. Ça a été un homme extraordinaire. Et à un moment donné, il a eu un petit peu peur, parce que si vous regardez les tableaux de Gauguin, on retient le côté facile de l'anecdote des pays tropicaux, etc., etc. Mais Gauguin, ce qui est hallucinant, c'est qu'il arrive à mettre des aplats de couleurs extrêmement violents, extrêmement durs, de rouge à côté d'orange, etc. Et le tableau n'est jamais violent. Un tableau de Gauguin n'est jamais violent, il l'éteint toujours, ou d'un bleu glacier, ou d'un bleu... Mais il arrive toujours, par une complémentaire, à avoir un tableau qui est en même temps très profond et très violent. Alors quand on pense que nous, on aura passé quand même 50 ans de notre vie, je parle pour les autres, mais avoir des gens qui essayent avec du soi-disant acrylique de donner un effet de coup de poing, ce qui est absolument d'une pauvreté lamentable, lorsque vous regardez un tableau de Gauguin, lui, il a tout. Il a en même temps le coup de poing, il a en même temps l'anecdote, il a en même temps les fonds qui sont remarquables. Les fonds sont d'une vie extraordinaire par rapport à ce que je disais l'autre jour de Lacroix qui quelquefois a une certaine pauvreté dans certains de ses fonds. Gauguin, après ça, on peut aimer ou ne pas aimer, étant donné qu'il a une audace et une force terrible.
Un auditeur nous dit que c'était un bon agent de change, mais un peintre détestable.
Mais parce que je conçois parfaitement bien qu'on ne... C'est pour ça que j'ai dit en préambule que pour Gauguin, je crois que pour rentrer à l'intérieur de ses toiles, il faut comprendre la démarche. Ça veut dire que quelqu'un qui est du métier la comprend, quelqu'un qui n'est pas du métier peut être choqué. Ses tableaux sont tellement riches que si par hasard vous n'aimez pas l'orange ou le rouge, et comme il vous en met plein la figure et très fort, vous pouvez dire je déteste, je hais. Mais à un autre moment, si vous allez plus loin que ce premier choc, vous trouverez toujours dans un tableau de Gauguin quelque chose qui va vous rendre sensible ou ému, parce que il a tout dans un tableau. Pourquoi nous on passe de périodes qui sont figuratives à des périodes abstraites, à des périodes surréalistes, à des périodes, et lui il a tout dans un de ses tableaux. Il a su mélanger tous les genres et il l'a fait magnifiquement bien, puisque le béaba, ça veut dire la reproduction, ben il la faisait parfaitement bien quand il était très jeune. Il a suivi la démarche d'un artiste, il a souffert un maximum de choses pour le dire avec beaucoup de sensibilité, il s'est forcé à une technique vraiment draconienne au départ de sa vie, c'est vraiment quelqu'un où on peut, alors dites à ce monsieur que si par hasard il n'aime pas ses tableaux, il ne peut en aucun cas ne pas aimer la démarche de l'artiste. Parce que, comme a dit Georges Mathieu, et surtout au XXe siècle, la démarche de l'artiste est aussi importante, sinon plus que l'œuvre. Et ça, je le pense réellement pour notre époque. Alors, quand on voit nos petits commerçants, soi-disant artistes, qui essayent simplement de trouver deux, trois techniques pour gagner des sous et avoir des subventions ou se faire acheter par monsieur machin, ben celui-ci, il a prouvé que je l'adore parce qu'en fait, il est la preuve de ce que j'avance. C'est qu'il n'y a pas de miracle. On ne peut en aucun cas faire du très bon boulot si on n'a pas une technique imparable, des souffrances non moins profondes. Et puis, si, il le dit à un moment donné, ça c'est formidable, c'est s'il y a ce besoin inéluctable de créer à un moment donné entre sa femme, ses enfants, c'est pas joli, mais entre sa femme, ses enfants et la peinture, il choisit la peinture. Ben ça c'est un besoin, on n'y peut rien. Pour le coup, celui-là, il était vraiment né artiste. C'est tout, ça c'est...
Quand Marie-Josée aime, Marie-Josée aime. C'est assez clair.
Je vais décevoir ceux qui aiment quand je dis du mal.
Michel, est-ce que vous avez des découvertes récentes?
Je préfère ne rien dire et rester l'ambiance à Maudit Bombay.
Ah bon,
Marie-Josée Bravo, j'ai des choses, mais...
On va terminer
passer dans l'aigre après quelque chose qui nous a fait rêver. Ça
justement, il faut retomber. On va essayer de retomber doucement dans notre monde.
C'est pas possible.
On va pas basculer comme ça d'un seul. Non, mais par étapes. Et on va pas basculer d'un seul coup de Tahiti.
Le Déli Délu, alors. Le Déli Délu, ça vous plaît?
Oui, Déli Délu, j'aime bien. C'était dans quoi, ça?
Michel Noir. C'est Michel Noir, son procès, dont l'avocat a dit « La morale a supplanté le droit ».
Ah, c'est joli.
Ça vous fait rire?
Ah oui, j'aime bien. C'est un beau sujet de dissertation, ça.
Son avocat qui avait présenté Michel Noir comme un homme d'honneur, je le rappelle.
Oui.
Vous vous rappelez aussi de la signification de l'homme d'honneur?
Oui, tout à fait. Oui, ça se pratique beaucoup en Sicile.
En Sicile, oui. La misère à crédit, c'est un titre de Monsieur Desjardins dans le Figaro. Je trouve ça fantastique.
On peut tout avoir à crédit. Je préfère payer cash.
Oui, c'est tellement... Oui. Remettre en selle le palefroid, dit-on sur RTL.
Sur le dos de qui?
Sur le dos de qui, oui.
Remettre en selle le palefroid.
Les bouches sont ouvertes de façon désordonnée, il est vrai. C'est un vagabond sur Europe 1. Bernard Henry, j'aurais eu beaucoup de choses à dire sur Bernard Henry. J'ai l'impression qu'il y a une faillite qui est à peu près celle du Crédit Lyonnais pour Bernard Henry, parce que si vous regardez bien... Le testament de Dieu qui a été soutenu par tout Paris n'a pas tenu quelques semaines. Son livre...
Ah oui, c'était la pièce...
Avec
son épouse.
Son livre, La pureté dangereuse, je regardais dans Le Point, dont il fait partie, dont il est un des collaborateurs, a tenu 4 semaines. C'est bien peu. C'est beaucoup, mais c'est bien peu. Et alors, quand on lit son livre, on comprend pourquoi.
Parce que vous croyez que les mauvais livres ne se vendent pas?
Oui,
les mauvais livres, au bout d'un certain temps, c'est toujours la même chose. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, moi, j'aurais plutôt dire qu'il était dangereux de s'attaquer à la pureté.
Oui, c'est sans problème, ça.
Les anges s'y sont mis.
C'est sans problème.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez dégoté dans ce...
Bernard, oui, d'autres, des spectres, je cite, c'est page 26 pour ceux qui sont maniaques et qui veulent retrouver, d'autres, des spectres, des fantômes que nous pensions, quelle illusion, avoir rejeté dans les limbes d'une préhistoire toujours vivante. La préhistoire est toujours vivante et on rejette les spectres dans les limbes.
Dans les limbes de la préhistoire, bien sûr.
Oui.
Oui, c'est joli comme formule.
Il parle aussi des Bulgares, de la mythologisation du joug ottoman.
Oui.
Alors ça peut... Enfin, je ne sais pas. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de nos amis.
Mythologisons les joues. C'est un bon exercice de prononciation, ça, tiens.
Et comme dans toutes les débâcles, comme dans toutes les fontes des neiges, remonte à la surface ce que la chape avait saisi, dit Bernard-Henri Lévy, qui a le sens de la figure bien ajusté. Ouais. Je vais arrêter avec Bernard Henry parce qu'il fatigue.
Il vous fatigue ou il fatigue
surtout que l'heure tourne.
Et l'heure tourne. Donc, bonsoir. Ah, une petite conférence qui a eu lieu quand même sur 1000 siècles d'immigration clandestine. C'est un concept qu'il faudrait quand même voir un peu plus près. Ça a eu lieu au Palais de Chaillot, au Muséum national d'histoire.
À la porte, l'homme de Cro-Magnon.
Voilà.
Ouais. Merci Michel. Alors, je signale qu'on trouve les bévues de presse de Michel Manzat.
Et oui, dans un excellent journal, comment s'appelle-t-il?
Le Libre Journal.
Le Libre Journal.
De la France courtoise. On trouve maintenant une petite rubrique qui s'appelle comme ça, bévues de presse. Je vous la recommande parce que elle est brève et elle montre que vraiment la presse est une chose sérieuse. Trop sérieuse pour être confiée à des journalistes, en tout cas.
Vous avez Victoria, peut-être des annonces,
j'ai des annonces. Le vendredi 10 mars 95 à 20h30, salle Saint-Pierre-Julien, salle Pierre-Julien-Aymar, je veux dire, 23 avenue de Friedlande, conférence de l'historien Jean de Vigry, professeur des universités, les martyrs de la foi pendant la Révolution française, 1789-95. Dimanche prochain, 9 avril, de 14h30 à 18h30, non, c'est pas prochain, c'est le dimanche 9 avril de 14h30 à 18h30 au Palais des Congrès de Versailles, toute une série de conférences très intéressantes. Yvan Gobry, Martin Luther, c'est inconnu. Jacques Herz, Le Moyen-Âge, une imposture. Jean Dumont, La véritable controverse de Valladolid. Et Vladimir Volkov, Grandeur et décadence de l'Empire russe à la lumière de l'histoire. Je rappellerai ça. Et puis, lundi 13 mars, de 9h à 18h, à l'entrée du CHR Clémenceau. Qu'est-ce qu'il y a ?
On est le 15 mars.
Nous sommes le 15 mars. Oh pardon, oui, bah alors non, bah c'était ça, là, c'était une réunion pour la vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, oui, j'ai tout dit, le reste pourra attendre.
À propos du nouveau générique, je suis mélomane et j'adore votre nouveau générique.
Ah bah ça me fait
roboratif,
plaisir.
Gardez-le trois mois.
Trois mois, c'est
mélomane, ça me rappelle un ancien
non,
livre,
non, pour l'indicatif, je suis d'accord. Mais une fois par an seulement pour la Saint-Serge. Et enfin, puisque notre époque est à la dérision, gardez-le donc, ce générique.
Gardez-le vous.
Qui ne nous plaît pas.
Bien, lundi 20 mars 95 à 18h, à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet, conférence débat de Jacques Vidi, l'énergie des machines contre celle des hommes. C'est à l'occasion de la fête de Saint-Joseph. Et ça se passe à 18h, lundi 20 mars, à Notre-Dame-du-Lys. À 20h, messe de Saint-Pie-V, et à 21h, buffet, rencontre amicale, librairie, dédicace, etc., etc. Voilà, c'est tout.
C'est tout.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur les mélomanes?
Radio.
Un mot.
Numéro de l'Express, le vif, le supplément qui est vendu en Belgique au nom de l'Express, on confondait le mélomane malin et le mélanome malin du
conseil.
Quelle horreur.
On voilà. Déborde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Beketch datant du 15 mars 1995, assisté de Victoria. Cette émission a été diffusée dimanche 29 août 2010 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.